Groovy.
D'accord, et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde, je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Engagement. Et bonjour.
Bonjour.
Salut.
Voilà, vous nous avez reconnus, donc on se présente plus puisque vous nous connaissez.
Non, tu dois nous présenter.
Je vous présente.
C'est dans le contrat.
Ah, allez, si c'est dans le contrat, bon ben bienvenue.
C'est comme la tête de Paul Rudd dans Ant-Man. Tu dois l'avoir souvent.
Du coup, bienvenue. Les bières narratives, le podcast des bières qui parle.
De bière et de narrative.
Voilà. Donc nous avons Greg qui est à ma gauche aujourd'hui.
Et bonjour.
Le Bière Lanterne, hein, le site qui vous parle des bières et de plein d'autres choses autour de la bière depuis longtemps maintenant.
Oui.
Dégustation, histoire, etc. Et en face de moi, un monsieur qui s'appelle Nounours.
Tout à fait.
Et qui a un magnifique blog, Les Arts Narratifs, où de temps en temps, il parle. Mais voilà, de temps en temps, vraiment.
J'écris déjà dessus. Hein, là, je parle dans un podcast. Ici, là, tout de suite, là, maintenant. Et par contre, ce blog-là, un jour ou l'autre, je vais quand même poster des trucs. Promis, avant la fin de l'année. Je ferai peut-être un calendrier de l'avant, encore une fois, genre pour rattraper tous les articles que je n'ai pas postés toute l'année.
Ça peut être bien.
Donc, Les Arts Narratifs, c'est le blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, série, etc. Blablabla. Peut-être même un jour un article sur dossier. Dossier secret sur une centrale nucléaire qui exploserait et dont le nuage s'arrêterait à la frontière de la France sans faire des poissons à trois yeux. Attendez, ça me rappelait quelque chose, ça.
Étrange.
Ah, je vois. Et pour cet épisode, comme on va parler...
Et comme on est des salauds, on ne parle pas de celui qui nous présente.
Ben non,
bien évidemment. Ah, je croyais qu'on l'avait présenté.
Non, je me suis présenté, ça y est, vous n'avez pas entendu, il fallait suivre.
Excuse-moi, non, mais oui, mais tu as commencé ton speech, du coup j'ai cru que j'enchaînais, moi.
Ben enchaîne.
Et bien,
mais pas moi, s'il te plaît, pas Oli.
Vous l'avez entendu, on va l'enchaîner dans pas longtemps, c'est Brice, notre technicien taciturne de l'extrême. Excuse-moi, mon Brice.
Qui n'a pas pensé à rebooter, juste avant.
C'est vrai, exactement. Dans le doute, reboot, pourtant.
Et donc pour cet épisode, comme on va parler d'une série culte qui va fêter pas loin des 40 saisons, je crois, au rythme où ça va.
Non, mais tu verras, j'expliquerai après.
Ah bon. Donc ce n'est pas une seule, mais trois bières que nous allons découvrir ensemble pour cet épisode. Et donc pour la première, ce sera la brasserie Listerman avec la Don't Lay a Finger, une stout. La seconde, qui sera en fait la première, parce que du coup, c'est une IPA.
Non,
c'est
la dernière.
Ah non, c'est une stout, pardon. Oula, ce sera la dernière.
Et on n'a pas bu grand-chose avant.
Ouais, on a mangé une pizza.
On a bu une bière.
On a bu la fameuse flamme cuge de Mogwai, de Seb, qui est toujours aussi impressionnante.
Oui, si vous voulez manger une flamme cuge, que vous êtes avec des végétariens. Par exemple.
Mm-hmm. Exemple.
Voilà, vous avez une bière avec du malt fumé et
des oignons
et de la muscade. Voilà. Incroyable. Faut pas être allergique à la muscade.
Incroyable. Non, mais...
et des oignons.
Du coup, je reprends. Je disais, pardon, excusez-moi pour la première. Donc, ce sera la brasserie Listerman avec la Don't Lay a Finger qui est une stout. La seconde sera française et viendra de nos copains de Icebreaker avec la Do Not Disturb, une apéritif stout brassée avec des donuts. Et la dernière sera en fait la première qu'on va déguster dans l'ordre, sera de chez Pontoon Brewing avec la Evergreen Terrace, une jolie West Coast IPA des familles. Et avec cette adresse, vous aurez sans doute fait le rapprochement. Eric, du coup...
Je tiens à préciser que la Donut Disturb n'est pas brassée qu'avec des donuts, elle est brassée avec des invendus de donuts. C'est noté sur la canette.
C'est ce que fait Icebreaker, tout à fait, on en parlera justement.
Mais du coup, je me demande comment des donuts peuvent être invendus.
Ça peut arriver.
Ben, ils sont incorruptibles, invendus.
Ils sont invendus.
Celle-là, je n'en suis pas fier.
Qu'est-ce qu'on a au menu du jour, Eric?
Alors, on a Brice qui meurt.
C'est, on
peut le garder en montage, celle-là ou...
Oui. Attention.
Il meurt vraiment.
C'est bon.
Ça va.
Non, il est décédé. Faites du massage cardiaque.
Non, merci. C'est bon.
Pas de bouche à bouche, s'il vous plaît.
Alors, aujourd'hui, au menu, on aurait pu évoquer... Alors vous aurez pu imaginer, vu les noms des bières dont on a parlé, ce qu'on aurait pu évoquer. Donc j'ai pensé évidemment à O.J. Simpson. le joueur de football américain qui est plus connu pour ses problèmes avec la justice, car accusé d'avoir assassiné sa femme, accessoirement, et son amant aussi.
Non, mais non, le gant, il ne rentrait pas.
Voilà. Dans un procès ultra médiatisé, alors que ses performances sportives, il a été bon, il y a longtemps.
Il était aussi dans les Y a-t-il un flic ?
Oui.
C'est pas faux.
C'est vrai.
J'aurais pu parler aussi de Don Simpson, le producteur de nombreux gros films des années 80-90. Décédé depuis.
Ah oui, oui.
Top Gun, The Rock, Le Flic de Beverly Hills, Flashdance et Bad Boys n'auraient pas pu se faire, ou sinon très différemment sans lui, s'il n'avait pas mis ses sous-sous.
C'est vrai.
J'aurais pu aussi vous parler de vieux et obscurs cours de maths en causant de Thomas Simpson. Vous savez la fameuse méthode de Simpson pour calculer une intégrale avec... Mais bon, niveau histoire, je vois pas de quoi je reparle.
Ça me dit rien. Ouais.
Bon, au final, ce qui sera au menu ce soir, c'est bien sûr la famille, les Simpson.
Le corbeau. Tu fais bien le corbeau.
C'est tout noir.
C'est tout noir.
Titititititit.
Et je vous fais un audio description sur Skype et c'est transformé.
Et ben ouais.
Et pour
c'est les Simpsons. Ce sont les Simpsons. Et donc, avant de commencer à parler justement de nos chers amis jaunes, notre famille américaine moyenne, je vais vous parler un petit peu en fait de nos trois brasseries du jour.
J'y pense.
Dis-moi.
Tu vas aller sans doute les dire dans l'ordre où tu as écrit le conducteur. Exactement. Qui est l'ordre inverse dans lequel on va les boire.
Totalement.
Donc est-ce que s'il passe le podcast à l'envers, il y a des messages sataniques qui sont diffusés?
Faites pas, ça va invoquer des démons sur la planète.
On
faudra
va
aller
passer,
chercher le Necronomicon et on est dans la merde.
On va vous passer des extraits de Queen et de Twisted Sisters ainsi que des Beatles. Et puis je vais dire Another One Bites the Dust et puis vous allez le mettre à l'envers et ça va dire It's cool to smoke marijuana. Donc qu'est-ce que c'était comme con comme truc quand même. Faut vraiment aller con quoi. Bref, donc je vais les faire en fait dans l'ordre que je l'avais écrit effectivement, qui n'est pas du tout le bon, dans l'ordre de dégustation autant pour moi, parce que je l'ai fait de tête et je me souviens en premier de celle-ci. Donc on va commencer par la brasserie Listerman et sa Don't Lay a Finger, qui est une double brasserie stout sur laquelle on retrouve en fait le brasseur, qui prend la place de Bart Simpson écrivant sa punition au tableau lors du générique d'introduction. Donc, c'est une brasserie qui a été fondée en 1991 par Dan et Sue Listerman, donc un couple. À cette époque, le couple brassait du coup leur bière en main amateur et vendait du matériel de brassage au sein du Hamilton County Business Center avant d'emménager en 1995 dans un bâtiment de 1200 m². Donc, en gros, c'était des gens qui vendaient du matos de homebrewing, tu vois.
Mais donc, du coup, Sue Listerman, c'est un rappeur avec Sue Ellen.
Eh bien, je me suis posé la même question. J'ai dit, la meuf, elle vend de l'alcool, elle s'appelle Sue. Non, à mon avis...
Elle est peut-être juste bourrée.
Elle est peut-être juste bourrée, exactement. Du coup, le mari, donc Dan, brassait, lui, en plus de son job d'ingénieur qualité, avant de tout plaquer en 93 et se consacrer vraiment exclusivement à la bière. Donc, il se passe pas mal d'années hein, où leur magasin prospère. Youpla boum, je savais que tu allais la faire, Eric. En 2008, une brasserie vendait donc du matériel et après... Toutes ces années à brasser en amateur, Dan et Sue se disent que c'est sans doute le moment de mettre en pratique leur expérience pour fonder une vraie brasserie. Donc ils achètent le matériel et obtiennent leur licence de brassage et c'est là que la Listerman Brewing était née. Donc la brasserie est maintenant un lieu assez prisé, aussi bien pour sa taproom que sa vente de matériel, puisqu'ils continuent à faire ça. Mais également ils ont un club, dans un système que j'aime bien aussi, c'est où tu as ton propre verre que tu poses et que tu récupères. Ça, c'est pas mal.
J'ai vu ça dans certains.
C'est pas mal.
Certaines brasseries à San Diego.
Je le ferai bien au Beer Academy, mais je vais vite manquer de place, je sens. Donc, voilà. Et qui fait aussi, comme nous d'ailleurs, des cours de brassage. Donc, c'est plutôt un business familial, relativement local également. Parce qu'on la trouve pas forcément partout aux États-Unis ni en France. D'ailleurs, celle-ci, je crois, Eric, tu l'avais rapportée d'un de tes voyages à San Diego, il me semble.
Il me semble
que tu l'avais ramenée. Dans tes périples américains.
Non, avec celle-là, non. Celle-là, non.
À Lyon, peut-être, tu l'avais trouvé ?
Ouais, peut-être à Lyon, ouais.
D'accord, moi, j'avais jamais vu la Listerman avant dans n'importe quel truc. Hein, donc, mais bon, écoute, voilà, c'est une brasserie qui reste quand même, malgré tout, assez locale et peu connue, on va dire, par chez nous. Mais elle a gagné notamment de nombreux prix et concours locaux et nationaux. Donc, ça, c'est pour la brasserie Listerman, donc la première, donc la Stout. On va revenir en France pour la seconde et on va aller dans la ville rose de Toulouse, de chez Nougaro. C'est une brasserie qui s'appelle Icebreaker, qui est née en 2020, avec aux commandes trois passionnés que sont Roderick, brasseur et maître distillateur. Anne-Sophie Bigot, qui s'occupe du marketing, mais qui est également autrice dans la bière et le whisky, qui a sorti un livre tout récemment d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Vous allez enfin vous y connaître dans la bière, un truc comme ça. Et enfin, le plus fada, et sans doute de tous, c'est Dan, le maître brasseur, que vous avez peut-être dû croiser pour ceux qui nous écoutent, qui sont venus au bar au cours d'été chez nous ou même ailleurs. Donc voilà, Dan est le fada du groupe, quoi. Alors moi, je m'en cache pas, c'est une brasserie que j'aime beaucoup parce que ça a été notamment un des premiers TTO que j'ai fait à mon arrivée à la direction de la Birac avec Antoine. Mais c'est aussi une brasserie avec qui on a fait notre première collab, la Brew Against the Machine, une Black Session IPA, qui avait eu son petit succès, donc c'est cool. Dan a déjà fait un second TTO et je pense qu'on en aura d'autres à venir, mais voilà. Icebreaker, c'est une brasserie que j'aime beaucoup, aussi bien par l'amitié que j'ai pour eux, mais aussi par rapport à l'équipe et les valeurs qu'elle porte, telles que la valorisation des déchets, donc on parlait des invendus de donuts tout à l'heure, Brice, mais également la protection animale ou encore
les chiens invendus.
Les chiens invendus, ou la cause féministe, les femmes invendues. Le truc horrible. Non, non, ou encore le féminisme.
Ceci était de l'humour. C'était de l'humour de répétition, pas. Non pas une humour de.
Côté bien, donc la brasserie, elle avait fait parler d'elle assez tôt, en fait, parce qu'elle avait créé une bière à la chocolatine. Une bière au pain au chocolat hein, par chez nous.
Oui, c'est
nous.
Chocolatine, c'est non, c'est
non,
c'est
pas, non, c'est pas, non. Non, je pense que c'est une faute de frappe à mon avis.
Ah, ah oui, j'allais dire la langoustine, mais c'était Matmata ce ben, week-end.
Et la gelatine, c'est un pain dans la gueule, mais à Toulouse apparemment. Donc la brasserie, en fait, elle est assez connue pour notamment des sour et des gosses fruitées, des lassi gosses et également des passes Richtout telles que la notre fameuse Donut Disturb, qui est fait justement avec les fameuses invendus de Donut.
Je n'ai pas lu le conducteur quand tu dis lassi gosses, j'ai vu un chien, un oui. Collet. C'est très bizarre.
C'est ça. Non, mais ils font tout un tas de styles, hein. Évidemment, de la blanche, des wheat beer et tout ça, des blondes, des pale ale, mais c'est vrai qu'ils sont relativement reconnus pour avoir une très grande variété de recettes. Pour vous dire, ils ont tellement de recettes que je sais même pas s'ils ont une gamme classique. J'ai jamais eu l'occasion de tester, voir vraiment leur vraie gamme classique, mais je crois qu'il y en a. Et enfin, si vous aimez du coup cette brasserie, sachez que l'équipe dispose aussi d'un pub à Toulouse que j'ai eu la chance de visiter, qui s'appelle le Hopscotch, qui est dédié à la culture écossaise et où vous pourrez trouver notamment de la craft, du bon whisky craft également, mais aussi du haggis. Et ça, c'est assez rare pour être souligné parce que le haggis, c'est bon. Et on va terminer du coup notre petit tour brassicole du jour de l'épisode avec un retour aux USA pour aller chez Pontoon Brewing en Géorgie. Alors, pas en Europe, hein, Géorgie américaine, puisque les Américains, ils aiment bien piquer nos noms à nous, Européens. Donc, c'est une brasserie qui est née en 2014 par l'initiative d'amis brasseurs amateurs. Le nom vient d'une catégorie de bateaux, j'ai appris ça en faisant le conducteur. Une sorte de catégorie de bateaux typée telle une plateforme. Qui avance assez tranquillement, c'est un type de bière adapté pour le mouillage en fait, la plaisance, la pêche, etc. Et donc c'est la philosophie pontoon en fait pour eux. Ces gens, c'est des gars.
C'est comme un ponton quoi en fait.
Bah ouais, sauf que là il y a un moteur. Voilà. Oui, littéralement, tu es un peu sur ça, tu vois. Donc voilà, ils le voient comme un truc relax, c'est leur philosophie, du pontoon. Alors de là, au départ, la brasserie c'était en gypsy, puis en 2016, elle s'est sédentarisée pour de bon avant d'ouvrir officiellement ses portes après travaux en 2017. Et leur mascotte, comme vous allez le voir sur les photos, ce sont de petites loutres que l'on peut trouver dans cet état américain. C'est moignon. Donc on les retrouve assez souvent sur les visuels. Et ils ont aussi un lapin blanc d'ailleurs sur certains autres qui on dirait une espèce de Roger Rabbit sous coque. C'est un peu chelou. Alors que Roger Rabbit déjà il est chaud. Et pour notre bière du jour, on voit nos fameuses loutres déguisées en famille Simpson. Et le nom de la bière fait évidemment référence à l'adresse postale de la famille américaine préférée du grand public. Et donc maintenant qu'on a fait le tour de nos brasseries du jour, je vous propose d'écouter Eric et Brice qui vont nous raconter l'histoire des Simpsons et de Matt Groening, du coup.
Allez, t'as pas un peu soif, toi, d'abord?
Non, je commence à avoir perso, soif.
Si on pouvait en jeter entre la pontoon et la boire.
je vous propose d'aller récupérer...
Je me lève de ce pas.
Et en attendant, on va vous mettre des extraits d'Homer Simpson, dont un qui me plaît déjà.
Do.
Attention, go.
T'as ferme. Pardon d'être en retard, mais quelqu'un a trafiqué mes freins.
C'est un extrait de
Là, vous auriez dû être en avance.
Il vous a pas raté.
Voyons, mes amis, il vous a promis un ramassage des ordures nuit et jour. C'est impossible.
Pas si on engage plus d'éboueurs, et mes éboueurs vont faire toutes les corvées à votre place. Ils vont laver votre voiture, frotter votre baignoire, aérer tous vos trucs qui schlinguent.
Je me demande si j'ai bien entendu.
Vous montez le son de ton appareil auditif, papy.
Papy, je n'ai que 2 ans de plus que vous.
Vous avez envie que papy Patterson puisse un jour appuyer sur le bouton?
Quel bouton? Mais enfin, de quoi vous parlez?
Quoi? Quel bouton? Où suis-je? Qui a volé mon dentier?
D'accord, à vous de choisir. Si vous voulez un fonctionnaire qui a fait ses preuves, votez pour moi. Mais si vous avez envie de croire à un tas de promesses farfelues, comme le ramonage de vos cheminées ou le lavage de vos voitures, alors n'hésitez pas une seconde. Votez pour ce dangereux personnage.
Et il a gagné. Voilà, c'est un petit extrait. On a une compile de Simpsons, c'est génial, du coup, pour tous nos blancs occasionnés par notre dégustation. Bah, on va passer par ça. La canette, elle est vraiment stylée Simpsons, j'adore. Tu as vraiment tout le design
le salon
de Simpsons.
Ah,
c'est littéralement
c'est le
gag du,
du canapé.
Et
le
voilà,
gag du canapé,
commence.
Le canapé
voilà,
couch.
Merci.
La dyslexie du mardi.
Ça, hein, ça commence, la dyslexie du mardi.
Même donc, quand on est le mercredi, le samedi, le dimanche, c'est pareil.
Oui, c'est tous les jours,
donc,
toute l'année.
C'est une belle petite West Coast IPA qui est plutôt trouble doré, un poil cuivré, qui a une belle mousse.
Qui sent bon,
ouais.
Ouais, franchement.
Elle a bien vieilli. Parce que là, je l'avais acheté, je me souviens,
en 92.
Juin, juin dernier, donc ça.
Quasiment un an.
Quasiment un an, donc voilà. En général, c'est 6-7 mois. Mais là, elle est bien passée.
Importée par Brothers Loving Beer à Lyon. Et.
BLB, ouais, tout à fait.
Ouais, et une. Elle est à peine périmée.
À peine.
Ouais, alors, ouais. 2 mois chez nous, ça va.
Non, franchement, ça va. Et puis, attention, je l'appelle un petit aparté, quand vous voyez une bière qui a une DLU dépassée, c'est pas qu'elle n'est plus bonne, c'est que juste, c'est plutôt sa DDM, en fait. Donc, la bière peut avoir perdu en saveur, mais en gros, vous n'allez pas vous empoisonner si vous allez à 2-3 mois de retard, voire des fois, vous pouvez les faire vieillir. Hein, donc, après, à un moment donné, elles n'ont plus un goût, plus aucun goût. Hein, donc,
c'est clair.
Voilà, et cette bière, on l'avait achetée, j'en avais parlé dans l'épisode précédent, dans un Leclerc. Le fameux Leclerc que j'avais cité à un moment donné où ils avaient leur propre brasserie, les mecs, quoi.
C'était quel assez sacré impressionnant. Leclerc.
Oui, sacré.
Sacré.
Mammouth écrase les prix, comme disait l'autre.
Voilà. Bref, on va se rappeler de Sodim bientôt.
Voilà, putain, c'est clair. Donc voilà, l'Evergreen Terrace, les Simpsons. Et alors, Eric, parle-nous un peu de nos amis.
Ouais, allez, j'y vais. Je me lance. Je vais vous faire une confession. Je suis de la génération qui a connu la Bartmania. Oui, je suis vieux. Trousse, banane, t-shirt, repose téléphone, etc. Je ne sais pas pour vous, mais de mon adolescence jusqu'aux environs du bac, à peu près, mais j'ai eu plein de goodies des Simpsons, volontairement ou involontairement. Hein,
Pense moi aussi. Tu avais toujours l'oncle ou la tante qui t'offrait la paire de chaussettes Simpson.
La paire de chaussettes. J'ai eu un polo avec Bart dessus. J'avais un repose téléphone à l'époque où les téléphones avaient des clapets.
Ah, putain, ouais.
J'avais un repose téléphone avec un Bart qu'on avait acheté, je sais pas, dans un truc à cadeau.
J'avais une tirelire avec Homer sur le canapé.
Voilà. Donc, là, honnêtement, on est une génération qui a grandi.
Avec des goodies Simpson.
Avec les Simpsons, et voilà ce que ça donne.
Pardon.
Voilà.
Oh, ça va, ils ont eu pas de patrouille, les autres.
C'est pas faux, ouais. C'est vraiment d'une désormais licence culte dont on parle aujourd'hui. Tout commence en 86. Ça ne rajeunit pas.
J'avais 1 an, Eric en avait 40.
Je t'emmerde. Avec la création de la nouvelle chaîne nationale nommée Fox ou Fox Network, issue du rachat par Rupert Murdoch de 50% de la 20th Century Fox en 81, mon année de naissance vraiment, bien avant Disney bien sûr, et de celui en 1985 de Metro Media qui possède alors plusieurs chaînes de télé indépendantes locales de télé. Okay. Bien entendu, sur une chaîne de télé, il faut des...
Ben, des émissions,
des programmes, oui.
Voilà, des programmes, c'est le mot que je cherchais. Je vais vraiment avoir du mal ce soir, hein, je vous préviens.
Comme tous les autres soirs, minuit.
C'est la dyslexie de Brice. La dyslexie de Brice. Brice, les dyslexiques. Il n'arrive pas à parler.
Voilà, donc, en effet, il y en a deux qui suivent au fond. C'est pas un titre. Le démarrage du prime time de la chaîne donne le ton avec la série Marié 2 enfants.
Love and marriage.
J'ai les vieux du pétrole en face de moi, c'est horrible.
Quelle série dingue aussi, ça, putain.
10 saisons.
Il passerait pas aujourd'hui, je pense.
Je pense pas, non. Et l'émission The Tracy Ullman Show, où sont diffusées des parties musicales, mais aussi des sketchs. Et c'est dans cette émission que seront diffusés les premiers courts segments des personnages de la fameuse famille de Springfield. Ce n'est qu'à partir de la toute fin de 1989, a priori le 17 décembre 1989, que ces personnages auront droit à la diffusion dans de leur propre série avec des épisodes plus longs d'environ 30 minutes. Pour créer cette famille très connue, il y a deux noms. Le plus connu, c'est Matt Groening, qui est qualifié de créateur de concepts et des personnages, après avoir été repéré pour sa BD Life in Hell par le producteur audiovisuel James L. Brooks. Et lui, c'est le deuxième nom.
Ouais.
Fort d'une belle expérience de producteur exécutif à la télé, avec les fameuses comédies, enfin, outre-Atlantique, The Mary Tyler Moore Show et Taxi.
Oh, Taxi, quelle belle série.
Et réalisateur oscarisé pour Tendre Passion, Terms of Endearment, en 1984, James L. Brooks a eu le nez fin. Et il produit encore la série à l'heure où je bosse sur ce sujet. Vous vous rendez compte quand même que ce gars-là, James L. Brooks, enfin, je fais un aparté sur lui parce que, bon, j'ai lu sa bio. Hein.
Ouais.
Le mec, il a quand même fait le pilote de Cheers, le pilote de Friends. Il a poncé la comédie à la télé, c'est quelque chose de fou. Quoi.
Friends, tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas Cheers, c'était une série américaine qui était cultissime, qui se passait dans un pub à Boston et qui a eu un spin-off qui s'appelle Frasier, que vous avez peut-être du coup, lui... peut-être vu à une époque
Frasier,
sur Série Club.
C'est un spin-off de Cheers.
C'est un spin-off de Cheers.
Et il y a une autre spin-off de Frasier qui s'appelle Wings. Donc en fait, il y a trois séries pour
trois séries. Et
Cheers a duré 10 ans, Frasier 11 ans.
Putain.
Et
d'ailleurs, voilà. Le final de Cheers, ou l'épisode, je crois, où à un moment donné, il y a un des personnages qui se met en couple avec un autre, a été à l'époque un des épisodes de série les plus vus historiquement aux États-Unis, je crois.
Le dernier épisode de Cheers, je crois aussi, et je pense que ça a été juste après. Battu
ouais.
Que par le. Moi aussi, j'ai du mal avec le mot. Visiblement, c'est contagieux. Aidez-nous. Envoyez vos dons.
C'est le moment de parler du fait que nous avons un Tipeee. Si vous voulez nous aider à pouvoir mieux lire, à nous acheter des lunettes et des séances d'orthophonie. Et on connaît l'orthophoniste, on la salue. Mais il faut la payer, on ne peut pas. Mais ouais, c'était des séries qui étaient aussi à l'époque.
J'ai pas
connues.
Fini ma phrase.
Pardon,
il a été battu par.
Battu par, excuse-moi, non.
Par Seinfeld, quelques années
après.
Ah
putain, ouais, Seinfeld. Ça aussi, c'était quelque chose.
Ça, mais c'est pas tout jeune, Seinfeld non plus.
Et non, ça a été battu. Cheers, ça a fini au début des années 90. Hein.
Ouais.
Seinfeld a fini en 97, je crois.
Je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, je vous conseille l'émission, je crois que c'est le spin-off de Capture Mag, le podcast sur les séries, sur Seinfeld, qui est hyper intéressant, qui ont 2-3 parties. Qui est vraiment cool. C'était des séries où j'avais des tas de gens qui aujourd'hui sont connus. Hein. Woody Harrelson, Ted Danson, Taxi, t'as eu Lloyd,
De Vito,
enfin plein. Non, c'était une époque où tu avais quand même pas mal de trucs. Quoi. Et donc, Brice, pour
et donc,
nos
les
amis,
Simpsons, qu'est-ce que Quatès Les Simpsons, c'est un petit peu une sitcom,
et oui.
Mais que l'animation aurait gavé d'amphétamine. Du coup, c'est la vie d'une famille qui est présentée comme typiquement américaine, enfin, du moins vue de France,
ouais.
Mais qui est quand même un petit peu une caricature.
Une quaricature.
C'est la cousine de Carrie Fisher.
Une quasi-quature.
Du coup, on a Homer, le père, qui travaille en tant que responsable de la sécurité dans la centrale nucléaire de Springfield. Un poste en complète contradiction avec son attitude totalement imprudente et inconsidérée. Il est présenté comme bête, il est obèse, il aime boire des bières devant sa télé. Il est marié à Marge, qui est le stéréotype de la mère au foyer américaine, femme fleur bleue mais attachante. Ils ont 3 enfants, Bart, le gros fouteur de troubles, 10 ans, Lisa, la surdouée, 8 ans, avec un engagement politique déjà à 8 ans, et Maggie, le bébé qui communique en suçant une tétine. Et le père d'Homer, donc grand-père des petits-enfants, présenté comme un vieillard sénile qui s'appelle Abraham Simpson et non pas Lincoln.
C'était la mode à l'époque.
C'était la mode à l'époque.
D'ailleurs, on peut voir le grand-père Simpson quand on était aux États-Unis dans le Bryce Canyon. On était tombé sur un rocher en forme de grand-père Simpson.
C'est vrai.
Ça nous avait beaucoup fait rire. Donc,
blague réservée à ceux qui peuvent aller aux États-Unis, qui peuvent aller au Bryce Canyon,
le Bryce Canyon
et voir la pareidolie qu'on a eu avec le rocher. Bon, du coup, c'est chiant en fait. Pardon.
Donc, une série qui est très connue, donc c'est bien Les Simpsons. La série a débuté fin 89, comme tu le disais tout à l'heure, Nounours, et elle a été récemment annoncée comme renouvelée jusqu'en 2025 au minimum, donc encore 2 ans. Donc la Fox vise d'arriver à la 36e saison.
Voilà, ça répond à ta question.
Il faut aller à 40, là.
Et ce, bon. Alors qu'elle est déjà la série primetime la plus longue de l'histoire du petit écran US depuis 2018, avec son 637e épisode, qui dépassa le record du western Gunsmoke, que je ne connais pas. Et du coup, en arrivant en 2025, qui vise donc les 800 épisodes.
Et
à 20 minutes l'épisode.
Ça fait du temps de
ça
visionnage.
Fait
hein.
du... Incroyable. Et ça vous occupera alors, au prochain confinement.
En termes de record, ça a certes battu la série en cours de diffusion, enfin la durée d'une seule et même série. Il se tire quand même la bourre avec Scooby-Doo encore.
Scooby-Doo.
Oui, parce que Scooby-Doo, avec le nombre de séries qu'il y a eu, il y a toujours une série Scooby-Doo qui sort.
Ouais,
la licence. En nombre d'épisodes au global, je crois qu'en 2014, Scooby-Doo était repassé un peu devant. Après, ils ont continué. Enfin,
ouais, mais c'était plusieurs types de séries Scooby-Doo.
Tout à fait. C'est pas le même record, on va dire. Mais
putain.
Et avant ça, ils avaient battu en termes de séries d'animation Les Pierres à Feu.
Ah.
La série la plus longue en animation avant les épisodes, c'était Les Pierres à Feu.
Du coup, côté français, au niveau visibilité, c'est surtout grâce aux rediffusions que les Simpsons sont présents sur le petit écran. En 90, on a Canal+, qui diffuse en clair
pour la première fois,
la première fois la série.
Juste après Décode pas Bunny.
Ouais.
Oui,
Décode pas Bunny.
En 93, c'est France 3 qui rediffuse dans ses émissions jeunesse les Minicums. Et l'apothéose, c'est en 2006, l'achat par W9. Qui le diffuse quotidiennement et qui fera même des rediffs régulières. Je crois qu'il y a même des journées entières.
Oui, il faisait des rediffs de cette rediff chaque week-end.
Oui. Ah oui, voilà. Ouais,
des fois, les rares fois au jour de la télé, c'était W9, les Simpsons en boucle. Quoi. C'était dingue. Mm.
Du coup, même si W9 perd les droits de diffusion en 2020, M6 se l'aura déjà un petit peu diffusé entre 2007-2008, Canal Plus aussi, 2008-2017, Citer en 2017, Série Club en 2019.
On dit pas Citer, on dit Sister.
Sister.
Ah,
je ne sais pas, je n'ai jamais regardé cette chaîne en fait.
C'est une chaîne du groupe M6 comme W9,
oui,
etc.
Oui, bah, c'était le truc TF1-M6, mais je n'ai jamais regardé.
Elle existe encore ?
Alors là, bon,
je ne crois pas à télé,
aucune idée.
Coup, pas
voilà, c'est un moment de mystère. Voilà.
Mystère.
Et on a pu aussi la voir sur MCM en 2019.
Oh, putain,
pas de diffusion ou de rediffusion à la télé depuis le début 2023, mais c'est assez logique vu que Disney Plus a rajouté les droits et donc le diffuse sur sa plateforme.
Mmh. Ouais. Bah, heureusement, parce que tu imagines, avec 36 saisons. Le coffret DVD ou Blu-ray que tu aurais, c'est bien le streaming pour ça. Quand même.
Ah, mais il y a eu au moins 20 saisons. Enfin, je m'étais arrêté à avoir vu une vingtaine de coffrets. J'avais pris les 2-3 premiers coffrets après de m'être rendu compte que quand même, ça avait super mal vieilli et que la résolution n'était pas terrible. Mais.
L'éclair avec un Homer qui. Un américain qui travaille dans une centrale nucléaire. Ça me rappelle quelqu'un, moi, personnellement.
Ah ça, on les a vus passer ces Simpsons sur notre petit écran, avec notamment un générique assez particulier, composé par...
Danny Elfman. Men in Black, entre autres, je crois.
Et la plupart des...
Et les Tim Burton,
ouais.
Et dont certaines séquences sont réactualisées à chaque épisode jusqu'à la 20e saison. Le texte des lignes que Bart est obligé de retranscrire sur le tableau blanc. Enfin, pas le tableau blanc, vu qu'il n'est pas blanc, mais le tableau acré. Quoi, voilà.
Acré, ouais.
Le solo de saxo de Lisa et enfin l'arrivée de toute la famille sur le canapé du salon. Pourquoi 20e saison ? Vous vous demandez, vous avez en tête que c'est toujours la même chose.
Ouais, c'est vrai.
Eh bien, en fait, on en est à la 34e et le générique a en effet changé. bah oui, au 10e épisode de la 20e saison, le générique se plie au passage de la HD. Du coup, ils ont dû redessiner et refaire tout pour passer à la HD, y compris le générique. Et ainsi remanié avec l'ajout de deux séquences qui s'actualisent à chaque épisode. Le passage d'un personnage durant l'écran titre, qui passe dans l'air, un oiseau, machin.
Là, dans le générique, c'était le corbeau à trois yeux. Là.
Et on a aussi un panneau, quand on a une vue plongeante de l'école, qui montre toujours une nouvelle pub à chaque épisode. Par exemple, à côté de cela, de nouveaux personnages récurrents depuis des années apparaissent de ci de là dans ce nouveau générique qui dénature pas le principe, il y a toujours des séquences originales à chaque épisode. Quoi. Mais au rang des particularités de la série, on notera aussi la quantité de guest stars à la fois impressionnante par le nombre que par les noms qui sont passés dans la série. Que ce soit un simple personnage dessiné ou voire même quelqu'un qui est venu doubler son propre personnage ou un autre personnage d'ailleurs. Des noms il y a une page interminable sur Wikipédia pour ça à liste des célébrités apparaissant dans les Simpsons. C'est vrai, c'est là que j'ai tout trouvé.
T'as pas réussi ta carrière si t'as pas été dans les Simpsons.
Voilà. Alors j'en ai relevé quelques-uns des plus notables, comme le musicien style Michael Jackson, qui lui s'est doublé.
Qui s'est doublé, ouais, effectivement.
Dans l'une des premières saisons. Aerosmith, Katy Perry, Sting, Spinal Tap, les Red Hot, Cypress Hill, Smashing Pumpkins, Green Day, Van Halen, les Who, U2, Fall Out Boy, Lady Gaga, mais aussi des acteurs comme George Clooney, Tom Hanks, Ricky Gervais, Neve Campbell, Jonah Hill, Emily Blunt, Javier Bardem, Mark Hamill. Pour l'anecdote, Ricky Gervais, en créant The Office en Angleterre, a dit bah, les Simpsons, c'est aussi une partie de son inspiration. Quoi.
Ah ouais.
Donc, bref. Et on n'oublie pas certaines personnalités mondaines. Je fais toujours avec les doigts.
Mondaine, quand, avec les guillemets.
Voilà. Connu comme Gordon Ramsay, Jeff Bezos, Alan Moore. Oui, Alan Moore, dont on a parlé dans le podcast sur V pour Vendetta.
Oui.
Je fais du lobbying pour du Alan Moore. Hein, je suis désolé. Hein, c'est un toc. Hein, on fait ce qu'on peut. LeBron James et également des présidents comme George Bush, Bill Clinton ou encore Nicolas Sarkozy.
Mais qu'eux ne se sont pas doublés.
Non.
Eux-mêmes, ouais.
Non. Pas à ma connaissance, du moins.
Et c'était.
Il faut aller à la page Wikipédia, lise célébrités apparaissant dans le Simpson.
Ah,
et tu le sauras.
Eh oui. En président, je me souviens encore du film avec Schwarzenegger. Président Schwarzenegger dans le film.
Dans quel film?
Le film des Simpsons.
Ah putain, oui, mais c'est vrai.
C'est le président Schwarzenegger.
Putain, je m'en souviens pas.
J'ai été élu pour agir, pas pour lire.
Bon, allez, un petit cocorico pour finir. L'adaptation française est l'une des préférées du créateur Matt Groening.
Et pas québécoise.
Non, la française, monsieur. La française. Déjà parce que les voix sont très similaires aux versions originales, donc c'est déjà une belle gageure d'y arriver. Mais aussi parce que l'adaptation se permet parfois des libertés, ajoutant toujours plus d'humour ou même des références encore plus pointues, en changeant des vannes, voire même des musiques. Il y a eu des épisodes où on parle de Burns qui a connu la Pangée. Hein, c'est quand même assez précis comme pour un dessin pour gamin, tu vois. Je crois qu'il y en a un autre où tu as une chanson dans un jukebox qui est pas remplacée par du Gainsbourg, tu vois, pour alimenter la vanne, quoi. Donc c'est quand même un travail d'adaptation qui devait pas être très simple à effectuer quand même. Et en plus, en France, Homer et Marge sont réellement mari et femme. Ouais.
Ouais.
Leurs doubleurs, Philippe Pétieux et Véronique Augereau, sont également mariés à la ville, comme on dit. Pour l'anecdote, Madame Augereau est également la voix française de René Russo, qu'on a pu voir dans Thor et L'Arme Fatale, par exemple, de Jamie Lee Curtis, notamment dans True Lies, et enfin de Linda Hamilton à partir de Terminator 2.
Okay.
Philippe Pétieux, quant à lui, c'est surtout le doubleur attitré de Danny DeVito depuis Batman le Défi, et même du Pingouin dans la plupart des dessins animés de Batman qui ont pu sortir depuis. J'ajouterai enfin au sujet du doublage français que certains personnages ont dû changer de voix, notamment à cause de la retraite ou du décès du doubleur, parce que vu la durée de vie de la série, mécaniquement, celui qui a commencé aller à 30 ans, il a déjà l'âge dépassé, l'âge légal de la retraite actuelle, qui a pu changer il n'y a pas longtemps, on ne sait pas.
ils ont même perdu, je crois, l'acteur qui... Ah ben oui, l'acteur qui jouait Troy McClure, ouais. Est un acteur qui était dans la SNL, alors son nom m'échappe, qui était très connu et qui a été assassiné par sa femme.
Oui.
Et du coup, le personnage n'est plus jamais apparu dans la série.
Oui, ce qui est vrai pour le doublage français, c'est vrai pour le doublage original. Ouais,
c'était Phil Hartman, qu'on retrouve dans les précédentes générations du SNL. D'ailleurs, tu parlais de nos doubles français. Il y a un court-métrage que j'avais découvert où, en fait, il y a un mec qui vient pour faire signer des autographes aux voix des Simpsons dans une convention. Et je ne sais pas pourquoi, il y a le gars, je ne sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai vu, le gars jette un sort en Philippe Pétieux. Et il est obligé de garder sa voix d'Homère. Et tu le vois au quotidien chez lui avec sa femme. Il parle comme Homère. Et puis il va voir le médecin. Il fait je te prépare. Et à la toute fin du truc, il y a un autre sort qui est jeté sur un autre doubleur. Et c'est le gars qui joue, son nom m'échappe, qui fait le doublage de Eric Cartman.
D'accord.
Et je crois que vous pouvez le voir sur Allociné, ce court-métrage.
Je rentre à ma maison.
Ah ouais, non, mais c'était assez ouf, quoi.
Et donc, j'ajouterai au sujet du doublage français que certains personnages ont dû changer de voix donc à cause de la retraite ou le décès de l'interprète. Mais parmi les doubleurs disparus célèbres, toujours avec mes guillemets avec les doigts, les fameux et les célèbres aussi, on peut retrouver, suivant les saisons, dans le rôle de Mo, du père de Milhouse ou du principal Skinner, Michel Modo, qu'on a vu dans la série des gendarmes, dont on a parlé dans notre épisode 12, oui. De ce fameux podcast que vous écoutez en ce moment et que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast et sur les réseaux sociaux en tout genre. On en parlera mieux à la fin. Ou encore Gérard Rinaldi, membre fondateur de Charlot. Et surtout, le Marc de Marc et Sophie à jamais dans nos mémoires. Quand tu dis que Madame Moulinard, Marie-Pierre Cazé, a enterré M. Marc, respect.
je savais même pas qu'il était mort.
Oui, en 2018, je sais plus.
Marc et Sophie, mon Dieu.
Oui.
Je suis en train de chercher le générique juste pour le fun.
Je vais regarder. Il y a des épisodes sur YouTube qui traînent, c'est
vrai.
Oui, horrible.
Mais des fois, je m'amuse à regarder des vieilles séries ignobles comme ça, c'est très drôle.
Donc assez difficile d'en rajouter sur une série aussi iconique, car on a l'impression que vraiment tout le monde connaît les Simpsons, au point que le fameux d'Homer Simpson est rentré dans le Oxford English Dictionary.
Oh, joli.
Et surtout, la série a ouvert la voie à une quantité d'avatars divers et variés dans la catégorie dessin animé humoristique visant un public ado-adulte.
Tu n'as pas fait les guillemets avec les doigts.
Mais je ne fais pas les guillemets avec les doigts, je te laisse ça. Je sais que tu aimes le faire.
Fais les parenthèses.
Il le fait tellement bien, si vous saviez.
Quel beau geste technique. Du coup, le style de dessin animé Vivian Butthead, Futurama, aussi écrit par Matt Groening. Profession critique que je ne connais pas.
C'était c'est la série. En fait, après la première ou la deuxième saison des Simpsons, ils ont remplacé ça quand il n'y a plus d'épisodes sur Canal Plus par cette série-là, qui aussi plus tard a été diffusée par France 3.
D'accord. Ah ouais, j'ai jamais vu.
Hey, on a éternué.
Ou encore South Park ou les séries American Dad, Griffin, de Seth MacFarlane ou Bob's Burger, Daria, King of the Hill et des enfants illégitimes comme BoJack Horseman ou Archer.
Bob's Burger, j'ai découvert il y a pas longtemps et j'aime beaucoup. C'est très sympa.
Enfin, on ne serait pas complet, même si on le sera jamais, si on n'évoque pas le film sorti dans nos salles obscures en 2007 en France, où Homer pollue le lac de Springfield avec des déchets toxiques, ce qui conduit le gouvernement américain à mettre en quarantaine la ville entière. Washington la recouvre donc d'un immense dôme.
Dôme.
Dans l'intention.
C'est la version Netflix.
Pour y éradiquer toute forme de vie. Les Simpsons se voient alors obligés de déménager en Alaska, mais tous les membres de la famille ne veulent pas laisser leurs amis vivre un tel drame. Le film a commencé à faire parler de lui dès 2001, mais il y a eu des centaines de réécritures de scripts, de nombreuses coupes dans les scènes, et ça a énormément ralenti la sortie. Et sans doute enterré aussi une potentielle suite. Ce serait que du coup, depuis le temps...
Bah écoute, ça
2007-2023, ouais, ça va pas.
Voilà.
Ça n'a jamais
et du coup, on se souvient surtout de Spider Cochon.
Il peut marcher au plafond.
Est-ce qu'il peut faire une toile?
Bien sûr que non, c'est un cochon.
Voilà.
Et voilà. Et Brice est venu avec un t-shirt avec un cochon.
Oui,
hein. Enfin,
c'est, oui voilà. c'est vrai.
En honneur de
Spider Cochon. Et le Spider Cochon est toujours présent dans la série. Hein. J'ai vu une des dernières la dernière saison sur Disney+.
Putain,
et il y a bien
Spider
Cochon.
Le
toujours
cochon,
pas.
Il se l'est pas fait en saucisson.
Ah non, ils sont meilleurs potes et tout.
Excellent, quoi.
C'est très drôle.
Et alors, si le film n'a pas eu de suite pour le moment, pourtant, il a eu quand même un sacré succès à l'époque. Mmh. Il a rapporté 527 millions de dollars pour un budget de 75 millions. La bascule est quand même pas dégueu. Hein.
J'avoue.
Mais en plus, pour un dessin animé, c'est un sacré score.
Ben, tout à fait.
527 millions, c'est même mieux que le Roi Lion, me semble.
Ça, je ne suis pas allé sur Wikipédia vérifier le box-office des films d'animation. Je te laisse
pas.
Faire, si tu veux, pour compléter. Enfin, pour terminer, je suis obligé d'évoquer la question que tout le monde s'est posée au moins une fois devant un épisode des Simpsons. Mais pourquoi diable sont-ils jaunes?
Mais oui, pourquoi?
Pourquoi? Je vous le demande.
C'est trop cher.
Il y a deux versions qui cohabitent. La plus officielle, toujours avec mes... fameux
guillemets,
a été donné en 1998 par David Silverman, le réalisateur de nombreux épisodes de la série, dont le premier. Le premier 2, 3, 4, c'est lui qui les a réalisés. Il a aussi réalisé le film, quelques années après. Il explique qu'il souhaitait que la chevelure blonde des enfants soit confondue avec leur visage et que la couleur jaune attire l'attention du spectateur. Ok. Repenté caché, on n'y croit pas trop. Ouais. La deuxième version, j'y crois beaucoup plus. C'est qu'il y aurait eu un problème d'étalonnage de la couleur lors des premières diffusions sous la forme de mini-épisodes dans le fameux Tracy Ullman Show dont je parlais au début.
Ouais, ouais.
Et chose qui est un peu corroborée par des ciels mauves, des sols verts,
ouais.
Etc. Alors, l'erreur aurait certes fortement agacé l'équipe technique, dont Matt Groening, mais finalement, ils se seraient dit, ben, on va garder la couleur jaune parce qu'en vrai, ça ajoute un peu d'originalité, ça me plaît bien. Quoi.
C'est vrai, c'est voilà. vrai.
Et voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur les Simpsons, nom de Dieu.
Tout à fait. Petit aparté aussi, toujours sur les Simpsons. Quand nous étions allés dans notre fameux périple américain, tous les trois, souvenez-vous, nous avons fait le parc Universal et on avait fait l'attraction des Simpsons.
Tout à fait.
Et qui était anciennement l'attraction Retour à le futur. Et je me souviens que Brice, nous étions allés chez Mo. Et oui. Tu n'as pas pu boire de bière parce que tu n'as pas donné ta carte d'identité.
Je n'avais pas ma carte d'identité. Et voilà.
Donc, alors, ils ont reconstitué un petit peu les lieux iconiques en fait, des Simpsons. C'est assez bien foutu.
C'est assez flashy. Ouais.
J'ai beaucoup aimé. Et pour revenir vite fait, avant que j'entame mon sujet brassicole sur le film, est-ce que vous l'aviez aimé ou est-ce qu'il y avait un truc chez vous, sur ça, qui vous avait un peu dérangé, vous, sur le film ou pas du tout?
Le film, je l'ai trouvé long. Perso,
j'ai trouvé que c'était, voilà, moi mon avis, c'est que c'était un épisode juste plus long et
trop long
et les attentes étaient telles que j'ai été déçu parce qu'en fait j'ai été à comparer avec ma autre série préférée qui s'appelle South Park où là le film qui en plus était nominé aux Oscars, je me souviens, pour la meilleure bande son, ils avaient eu l'originalité de faire un truc complètement différent. À savoir une comédie musicale complètement starbée. Et
je m'attendais. Vu au ciné à l'époque, ça.
Moi, j'avais vu plein de fois au ciné, tu sais. Et je m'attendais, en fait, tu vois, à un truc un petit peu en plus, tu vois. Ouais. Un truc un petit peu en plus. Et au final, t'avais juste un long épisode avec un peu plus d'effets
3D
et de guests. Et c'est dommage, tu vois. Je sais pas vous, mais.
Presque des Simpsons dans les productions un peu en dehors de la série. Ce que je préfère, c'est les mini-épisodes qu'ils font maintenant sur Disney+. Ils en ont fait un sur.
Il y en a un avec Maggie, non, qui a été primé aux Oscars en plus.
Oui, le premier qu'ils ont fait.
Ouais, tu en as ont avec fait Avengers,
avec Loki,
Star Wars,
tout ça, Star Wars. Ouais. Et honnêtement, c'est ils reprennent bien les vannes un peu référencées.
Ouais.
C'est court, c'est des épisodes de 8-10 minutes. C'est vraiment pas, un cartoon,
c'est...
quoi. C'est vraiment un cartoon.
3 minutes.
3 minutes.
5 minutes avec le générique.
Voilà, et le générique est plein de gags aussi. Et franchement, c'est. Si vous voulez retoucher aux Simpsons, comment on dirait de la drogue, dit. Enfin, si vous voulez retoucher aux Simpsons, mais sans les mauvais effets, c'est le CBD de la BE ou le, je sais pas, le vapotage de la clope, j'en sais rien, ou la bière sans alcool de la bière, je ne sais pas, bref.
Voilà.
Vous pouvez aller sur Disney+, il y a 2-3 épisodes de ce type-là, et franchement, ça peut potentiellement vous faire retomber dedans. En général, je regarde ça et je m'en fais un épisode. Comme ça, au pif, des Simpsons.
Mais il y a un autre truc avec les Simpsons, avant de passer à mon sujet, qui m'a interpellé, c'est aussi que les jeux vidéo, les Simpsons en jeux vidéo, eh ben, ça n'a jamais été glorieux. Ça a toujours été moyen.
Les adaptations en général ne sont pas les...
C'est compliqué.
Il y a eu quelques bonnes surprises. Il y a eu Aladdin à l'époque de Mega Drive,
ou
de Super Nintendo. Tu as eu le...
Le Roi Lion, il était bien, je crois.
Le Roi Lion, c'était un peu la même équipe. Plus tard, tu as eu les...
Banda Picsou.
Ça c'était avant. Avant, t'as eu la bande à Picsou, t'as eu Quackshot, t'avais eu Mickey avec Castle of Illusion, etc.
Et les RPG avec Mickey d'ailleurs aussi.
Les Kingdom Hearts, c'est ce que je veux dire, crossover avec Final Fantasy. T'as eu après aussi des adaptations de. Comment dire, merde, j'ai oublié le nom du truc du coup. De Batman. Batman.
Oui.
T'as eu à l'époque.
J'avais Batman sur Lynx qui était fantastique.
Oh, t'as eu le Batman sur Super Nintendo qui reprenait le Batman de la série animée. T'as eu les Batman Arkham City, etc. Bon, dès que t'adaptais ces choses-là, ça pouvait encore passer. Par contre, les adaptations. Simpsons. Alors, non, le pire du pire, c'est pas les Simpsons. Allez checker les adaptations en jeux vidéo des bandes dessinées franco-belges.
Tintin,
Astérix.
Les dernières Astérix, je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs. C'est des espèces de Smash Dan Mub, un truc comme ça. Beat'em All, pardon. Le jeu, parce que je reste sur la comparaison, mais voilà, le jeu qui m'a le plus fait kiffer sur ça, c'est, tu vois, les Simpsons, ils ont essayé de faire plein de trucs, hein, des mondes ouverts, des courses de voitures, tout. South Park, Trey Parker et Matt Stone, ils ont fait donc deux jeux vidéo. Et en fait, l'avantage de South Park par rapport aux Simpsons, c'est que la charte graphique est assez simple chez eux. Et du coup, bah, quand tu joues aux jeux vidéo de South Park, t'as l'impression d'être dans un épisode et tout est là. Et c'est vrai que les Simpsons, l'effet 3D qu'on a fait à chaque fois aux Simpsons dans les dernières moutures, ça le fait pas en fait. Homer et ses marges en 3D, c'est compliqué, tu vois. Mais ils ont pas réussi à faire aujourd'hui un truc qui arrive à garder ce côté 2D animation qui puisse être transcendé sur le petit écran, quoi. Donc,
Ah, bon, je vais passer
un
à mon
petit
sujet.
Dernier mot au sujet des Simpsons. Bah, j'ai envie de dire que Homer a toujours été mon idole. Parce qu'en fait, ce mec a un job qui n'est pas forcément un job de fou, super bien payé. Il arrive quand même à se payer une baraque dans la banlieue.
C'est clair.
À avoir deux bagnoles. Sa femme est une femme au foyer. Il a trois gamins. Et malgré tout, il a quand même du fric pour aller boire chez Mo.
Et il fait, et il fait des tas de boulots différents sans jamais perdre le sien.
Oui. Ça aussi, c'est.
Oui, aux voilà. États-Unis, ils font souvent deux ou trois boulots.
Ouais,
faut
oui,
pas...
c'est pas et bah, écoutez, on va déguster. Je pense qu'on devrait commencer par notre bière de Listerman. Et puis pendant qu'on
Listerman.
Va l'ouvrir.
En fait, depuis tout à l'heure, j'entends Listeria et ça me donne pas envie de la boire.
Mais pendant que vous allez l'ouvrir, je vais diffuser juste pour le fun.
Il écrit au tableau. On avait dit tout à l'heure que c'était le brasseur qui s'était représenté en Simpson. I can put whatever I want in beer. I can put whatever I want in beer.
Très très bon.
Qui veut dire je peux mettre ce que je veux dans ma bière.
Ben, pendant qu'on l'ouvre, je vais vous passer un extrait que je viens de trouver. Québécois. Vous allez voir comme c'est pourri. La version, désolé les amis québécois, mais c'est vraiment spécial les voix, quoi. Vous allez voir, c'est assez particulier.
D'une aînée.
Ça, c'est marche.
Dans la chambre à coucher de sa mère.
Oh, ouais? Ben, coulons.
Et Homer.
C'est nouveau, ça, une roue de métal dentelée gratis dans un bois de crostillo.
Ah, c'est totalement l'accent québécois.
Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école.
Oh, j'ai mal au ventre.
Oh, tu veux pas aller passer ton examen?
Non, je suis sérieux, ça fait vraiment mal.
Maman, je pense qu'il est sérieux.
Les enfants, ça croit toute Lisa. Quand tu seras rendu à notre âge, t'auras appris des choses. Comme quand tu vois une pancarte qui dit « Nourrissez pas les ours », ben, je t'assure que t'es mieux de pas nourrir les ours. Envoie à l'école, mon gars!
C'est chaud quand même.
C'est
Madame
original.
Je peux pas penser crise
de
jambon.
Crise de jambon.
Donc, je tiens à dire quand même que nous sommes des professionnels. Nous avons oublié un décapsuleur et il s'est servi d'un support d'extincteur pour ouvrir la bière. Je tiens à le dire. En fait, non,
il y en avait un sur le porte-clés en plus.
Un sur les clés de la maison aussi. En plus.
C'est vraiment un support pour extincteur.
Ok. comme quoi, c'est utile. Bah, franchement,
après, pourquoi
ça
j'ai
peut
ça
sauver une vie.
Sur un bureau, je ne sais pas.
Mais pourquoi le magasin a brûlé? Bah, en fait, on a ouvert une bière, on s'est trompé, on n'a pas sorti l'extincteur. Bref. Eh ben écoutez, on va servir notre bière. Donc c'est une Imperial Stout, je crois, j'avais dit.
Je sais pas, tu t'es pas écouté.
Eh ben je ne m'écoute pas tant que ça, monsieur.
J'ai entendu Stout,
c'est
mais
une Stout. Ça c'est sûr, c'est une Stout avec une belle mousse, une belle robe noire, noire comme de l'encre de Chine, comme on aime le dire.
Oh, ça sent le chocolat.
Oh, ça sent le chocolat. Oh, c'est chocolat à mort.
Oh, c'est chocolat.
Oh, c'est très très. Oh ça.
Ah, je vais peut-être l'aimer celle-là.
Ah, c'est du chocolat noir quand même.
Ah ouais, ça me plaît.
Est-ce qu'il y a du chocolat noir à l'intérieur du brassin?
Ah, c'est vrai que le au nez,
ah
ouais. C'est.
Ah, le nez, il est extraordinaire. Il faut que il je faut. Trouve. Il me faut. Il me faut cette bière. Ben moi, du coup, on va rester sur la. En parlant de stout.
C'est une pastry stout with chocolate and copious amounts of peanut butter. Chocolate candy.
Ah, du peanut butter. Ah ouais, ça doit bien. Oh, celle-ci, elle est extraordinaire. Fais voir le
coup. Ah ouais, non, mais cette odeur de chocolat, franchement, j'en reviens pas, quoi.
Effectivement, tu as le côté
et
un peu gras.
Et t'as le goût aussi du
peanut butter.
Du peanut butter.
Bah, au nez, quand tu tournes un peu, tu sens un peu le gras du peanut butter.
Ouais, ça, ouais.
C'est
ouais.
Très chocolat noir.
Ouais.
En bouche, c'est pareil. Hein. Franchement, c'est je viens de...
En bouche, c'est pareil.
Oh là là. Comme dirait mon associé et ami Antoine, c'est comme s'il y avait plein de gens qui se mettaient dans la bouche et qui se faisaient des câlins.
Vous êtes dégueulasse en fait.
Hein?
Vous êtes dégueulasse en fait.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. On boit une stout, donc du coup, qui dit stout, ça vous fait penser automatiquement à
10%.
À 10%. Ça te fait penser à 10%.
Ah, ouais,
là,
à 10%.
Alors, tu sens qu'il y a une puissance un peu alcooleuse sur la fin. Mmh. Un petit peu.
Ouais. C'est une bière de Cincinnati.
Cincinnati.
Ben franchement.
C'est l'Ohio, ça.
C'est voilà, j'aime pas les stouts, mais franchement.
Celle-ci, elle est.
Elle n'a pas le goût de café.
Oui.
Faites des stouts qui n'ont pas le goût de café, bordel.
Oui, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas trop les stouts.
J'aime pas le café. Mais donc.
En fait, j'aime pas le café.
Le café, elle est extraordinaire. Et du coup, qui dit stout ne dit pas 10%, mais dit. Bah, du coup, Irlande, Guinness.
Bah, 10%, 10%.
Et vu qu'on a enregistré cet épisode en mars, j'ai eu envie de vous raconter. La fabuleuse histoire, parce qu'elle me fait toujours rire, la fabuleuse histoire de la Saint-Patrick.
Ah, Saint-Patrick.
Ah, Patrick. Ouais.
Alors,
Vous êtes tous assis, vous êtes accrochés parce que ça va être attention au voyage parce que c'est sympa. Donc vous connaissez tous cette fameuse fête qui est soi-disant liée à la bière, qui est aussi connue que les Oktoberfest.
C'est connu comme mon demi-anniversaire.
Voilà, c'est ton demi-anniversaire d'ailleurs, c'est vrai. Le pire c'est que c'est resté ancré dans ma mémoire. C'est quand c'était vendredi, je fais attention, c'est le demi-anniversaire d'Eric. C'est aussi connu que l'Oktoberfest, qui n'est pas une fête de la bière à la base, mais une fête qui célébrait en fait le mariage du roi de Bavière à l'époque. Donc c'est une fête qui est à la base un truc très local et c'est totalement étranger à la bière, comme je le disais. Il faut revenir à notre ami Patrick et à ses origines.
Patrick.
Alors, Patrick, attention. Alors,
c'est
attention.
C'est des rendez-vous dans 10 ans.
Mais il y avait que 10%.
Alors, attention, Patrick, c'est un peu comme le roi Arthur. Il y a une légende, il y a pas ou peu de preuves qui peuvent attester de sa réalité historique, hein, évidemment.
Ah si, Arthur a vraiment fait la fureur. Hein.
Ah oui, évidemment. on suppose qu'il aurait existé, mais le récit de ses aventures, lui, bon, c'est pas forcément prouvé. Mais on va partir de ce qui a été conté, hein, à son sujet. Donc Patrick s'appelait au départ Mewin Sukat, et il était à la base moitié britannique, moitié romain. Il est né entre 373 et 390. Il y a une petite marge quand même, tu vois, entre les deux.
Simpson.
Oh, très bon. Et en 405, il aurait été enlevé par des pirates pour être vendu ensuite comme esclave en Irlande où, durant 6 ans, il était hébergé pour un chef de clan. Et le soir, il dormait en cage, d'ailleurs. Voilà, anecdote. Peu religieux, il aurait rencontré Dieu durant sa captivité et se serait converti au christianisme à cette période-là. C'est d'ailleurs Dieu, attention, qui l'a poussé à s'échapper en allant vers les côtes, rejoindre un navire pour filer droit sur l'île britannique. Les détails de comment il a fui, sa cage et tout.
On s'en bat les couilles.
J'ai pas, voilà, on s'en fout. J'ai pas trouvé les détails exactement, mais bon, voilà. Et après, il y a peut-être plus d'articles qui peuvent l'attester, mais vu que c'est une légende, après, on peut trouver un petit peu de tout. La légende, justement, pour dire la légende, veut qu'il s'échoue avec ses compagnons d'infortune. Et ils ont atrocement faim. Alors, il demande à Patrick de prier son Dieu pour qu'il les aide. Parce que en pleine mer, chasser du poisson ou bouffer des fruits, tu vois, c'est prie Dieu, tu vois. C'est un peu comme les Américains qui ont une fusillade. Oh là là, on va pas abolir les armes, on va juste prier Dieu, tu vois. C'est un peu le délire, tu vois. Et là, magie, il y a un troupeau de porcs et du miel sauvage qui apparaissent.
Normal.
Non, mais c'est pas déconnant, c'est tout à fait possible. Genre.
Des côtes de porc déjà cuites avec le miel dessus.
Et là, t'as Homer
et le petit romarin.
Je suis sûr qu'un jour, les Simpsons. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais le fait que les Simpsons, à chaque fois. Simpson Delete, il y avait un épisode de South Park sur ça d'ailleurs, où les Simpsons font toujours tout, ou voire prédisent des fois l'avenir.
Ah oui,
un jour ou l'autre, il y aura peut-être un épisode où Saint Patrick sera immortalisé par Homer, si ça n'a pas déjà été fait. Parce qu'avec 800 bientôt épisodes, on peut en oublier, hein, c'est logique. Donc bref, il s'échoue, et donc devant ce show digne de Gérard Majax, les gars se convertissent directement au christianisme. Et là, il se passe aucune question, les potos. Là, tu vois, ils ont vu le mec, il ramène du porc et du miel, nickel, donc on se convertit. Au même moment, c'était la période où les Romains quittent la Bretagne, et c'est le moment où le christianisme se développe peu à peu sur l'île. On parle d'un passage de Patou en Gaule, par l'Armorique. Il serait ensuite descendu directement sur le monastère de Saint-Honorat, qui est situé sur une île au large de Cannes. Donc en gros, un Briton qui vient passer des vacances sur la Côte d'Azur, pour l'instant, tu vois, ça ne nous change pas trop d'habitude. Là-bas, il aurait fait des études durant 2 ans avant de remonter sur Auxerre, faire coucou à Guirou, pour devenir diacre, puis évêque. Alors, je ne suis pas sûr pour le fait qu'il soit remonté sur Auxerre. Guirou, ça oui. En 432, on lui demande de filer droit vers l'Irlande, parce que là-bas, les gars, ils veulent pas trop se convertir. Pour tout dire, ils se foutent complètement de la religion, ils prennent le libre arbitre. Oh, quel scandale. Le nom de Patricius lui aurait été attribué au moment de sa prise de fonction d'évêque, et qui est donc sa prise de fonction, c'est fait justement qu'il aille droit sur l'Irlande. Alors là, c'est très flou dans les recherches que j'ai pu faire. Il y a un assortiment de légendes plus qu'autre chose, mais en gros, il aurait été envoyé pour convertir le peuple à la place de Palladius, l'évêque précédent, qui parlait pas le gaélique et donc qui peinait à se faire entendre. C'est sûr qu'envoyer un mec qui parle pas du tout la langue pour convertir des gens à une religion auquel il croit pas, bien joué les gars, c'était une très très bonne,
idée.
Très bonne idée, smart move, tu vois. Donc sur place, Pat aurait converti l'île en défiant les druides dans des joutes singulières comme l'épreuve du feu. Là, j'ai toujours le truc de Kaamelott où ils se combattent avec des vannes, tu vois, avec Merlin. Bref, Patoche aura converti toute l'Irlande au christianisme, mission accomplie. Un jour, lors d'un sermon, il aurait pris un trèfle à trois feuilles
pour expliquer la Sainte Trinité et le symbole du trèfle deviendra alors officiel, d'après la légende.
Pourquoi j'ai pas de boogie woogie en tête quand tu parles du sermon ? Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ça.
Il y a aussi une autre légende par rapport au trèfle qui attesterait comme quoi l'église de Saint-Honorat, qui était vers Cannes, dans laquelle il avait fait ses études, avait la forme d'un trèfle. Et donc ça viendrait de là. Donc bon, après on peut dire tout et n'importe quoi sur cette histoire. Donc bref. Donc, il est aussi connu, Patrick, pour avoir chassé tous les serpents de l'île, allégorie de la conversion face à Satan, en gros. Le 17 mars 461, Patrick meurt à un ange tournant autour des 120 ans. Plutôt pas mal, je sais pas si c'est
bon
vrai, justement.
Bon, bon score à cette époque-là. Bon,
le mec qui a fait un viager après Patoche.
La voix de Dieu, quoi.
Ah bah ça. Et donc, c'est à partir de cette date, le 17 mars, qui est fêté son nom. Lui qui est donc officiellement le saint patron de l'Irlande, des ingénieurs et des dresseurs de serpents. Oui, des dresseurs de serpents.
Logique.
La fête de Saint-Patrick est donc qu'une fête chrétienne et non pas une fête nationale parce que le pays, en fait, n'en a aucune officiellement. Donc, qu'à cela ne tienne, on associe volontiers cette fête à la culture, aux traditions irlandaises et ce, partout où on peut trouver des Irlandais, c'est-à-dire partout, à savoir l'Irlande évidemment, mais aussi beaucoup de pays anglo-saxons tels que les USA, qui a une très forte communauté irlandaise, notamment à Boston et Chicago. D'ailleurs, à Chicago, chaque année, ils teignent la rivière en vert et ils font des parades. Et la plus grande parade de la Saint-Patrick a lieu à New York. Pour l'anecdote,
contre Kems, c'est une parade.
Contre Kems. Et pour l'anecdote, en 1903, ils ont fait de cette fête un jour férié. Mais les pubs ont dû être fermés parce qu'en fait, il y avait trop de débordements. Les mecs étaient tellement bourrés que ça faisait bordel. Et ils ont juste abrogé la loi au cours des années 70. Donc, il y a eu quasiment 70 piges où ils ne pouvaient pas boire de bière à la Saint-Patrick quand même. Hein. Je vous parlerai un jour de la prohibition, vous allez voir, c'est sympa. Aujourd'hui, avec la bière et l'incursion de Guinness, dont on avait, je crois, raconté l'histoire dans un épisode, il me semble, brasserie nationale...
C'est pas nous, on n'écoute pas.
C'est vous qui écoutez, c'est pas nous. Et donner des sous au Tipeee. Alors, on associe la fête à la Stout, au trèfle et au vert, alors qu'historiquement, la couleur officielle était le bleu. Patrick était en bleu et la couleur officielle de l'Irlande est le bleu. Et effectivement, on l'associe forcément aux beuveries où on boit des coups entre amis dans une ambiance irlandaise, même si on n'est pas de là-bas. Il faut dire que l'Irlande, c'est un pays magnifique qui dispose d'une population assez joyeuse. Et j'ouvre une parenthèse, Eric, parenthèse. Et à l'écolisée, soyons francs, mais ils sont très très drôles. Grosse parenthèse. J'ai déjà eu des clients irlandais au bar, ils sont en crevé de rire, les mecs, ils sont bourrés, mais ils sont très drôles, ils sont très bons délire. Donc voilà, maintenant vous savez que oui, la Saint-Patrick, c'est un peu une fête commerciale avec des parades et des trucs verts partout. Mais au départ, c'est la fête d'un mec qui a converti des gens en religion en chassant des serpents et en se faisant appeler Patoche. Et là, vous avez la légende
Patrick,
de la Saint-Patrick.
Patrick, peut-être Patoche.
Patrick, mais Patoche, c'était parce que c'est pour les intimes, tu vois.
C'est faux, quoi.
Donc, voilà, vous connaissez l'histoire de la Saint-Patrick, les copains.
Avec ou Saint-Patrick ?
Avec ou Saint-Patrick ? Eh bien, voilà, je vois la durée de l'émission. On est à 57 minutes. Je vous propose qu'on entame directement notre quiz.
Tout à fait.
Vu qu'on
faisons
a encore
j'aime
une
vraiment
bière
beaucoup
dégustée.
Cette stout, elle passe
extraordinaire.
Vraiment,
elle passe très bien.
Putain, ouais.
Comme un petit chocolat chaud, mais froid.
Mais clairement.
Un chocolat chaud mais froid, c'est un concept original fourni juste par les bières narratives.
Exactement.
Que vous pouvez retrouver dans tous nos applis de podcast et aussi sur les réseaux sociaux à les bières narratives sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tipeee. Non, Tipeee, c'est là où vous donnez des sous, pardon. Et les applis de podcast, vous pouvez nous retrouver. Bah, vous avez Podcast Addict, iTunes, Google Podcast, j'imagine.
Oui.
Ou
oui.
Apple Podcast, je ne sais plus. Enfin, vous trouverez. Cherchez-nous.
Cherchez-nous.
On n'est pas les plus minces et les plus petits du monde, donc vous pouvez nous trouver comme merde.
C'est parler pour vous.
Oui. Ah, ok, bon, on n'est pas teint en jaune. Ça va.
Toi, t'es un ver solidaire, on le sait. Bon, voilà. mais bon. Je vous propose qu'on entame justement notre fameux quiz.
Propose.
Et avant de commencer ce quiz, je propose un interlude Marc et Sophie.
Allez.
Oh, oui.
Marc et Sophie.
Oh,
Marc et Sophie. Marc et Sophie. Marc et Sophie.
Et là, ce son.
Marc et Sophie.
Et j'ai compris que c'est parce qu'en fait, il est vétérinaire. Ils ont fait aboyer les chiens.
Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie.
Reste en tête, j'ai jamais réécouté depuis t'es gamin.
Entre un anniversaire, un album de BD,
oui, ça
une maquette de corsaire, maquette.
Maggie, on l'a fait.
Mais comme ça fait un million d'années.
Vivement lundi.
Ça aussi, c'était plus bien. Qui a révélé une lycée.
Ouais, il y avait Bernard Ménez.
Merci. Il y avait Bernard Ménez. Oh, j'aurais dû couper.
commence à rêver.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le The Office à la française?
Alors, en vrai, oui.
Et il y a eu le bureau avec
le bureau Berléand.
Berléand, ouais. On a perdu Brice.
Mais ceci dit, oui, c'est un peu le The Office à la française
avant
l'heure.
C'est The Office à la française.
Putain, on était précurseurs, merde.
C'est Ricky Gervais, il a dit, je me suis révélé des Simpsons. Alors qu'en fait, il s'est inspiré de Vivement ma vie et Bernard Ménage. Il a des airs de Kevin, genre. Voilà.
C'est plus cet acteur là déjà.
Attends, on va voir. Désolé, ah, il a pas de nom.
Il s'appelle pas.
Jean
Rougerie.
Et voilà. Vous le saurez que Jean Rougerie a joué dans Vivement lundi.
Je pense qu'il a pas fait
ça.
C'est
le patron, c'est le patron en plus de Vivement lundi.
C'était le patron, oui. Et Ménès c'était le lèche-cul en tout cas. Pourquoi je me souviens de ça, putain?
Bon, parce que moi je sais pas, mais moi les cours sur les intégrales de la théorie de Simpson, personne m'en a parlé par contre. Hein. Je veux pas dire, mais.
Ah bah écoute, d'ailleurs en parlant toujours de nos amis les Simpson, j'ai Marocco. Bah, du coup, ça y est, j'ai un truc Marocco en réfléchissant. Je vais vous faire un quiz. Et en fait, mon quiz il va être spécial famille du petit et du grand écran. Du coup. Et donc, c'est un quiz en 20 questions, comme d'hab, très classique, assez fun, et vous allez, je pense, quasiment tout trouver. Alors, qu'as-tu vu, Eric?
Je n'ai rien qui concerne le podcast. Je faisais des mots croisés pendant que...
Tu prépares ton voyage à Prague et... Tu prépares ton voyage à Prague?
Oui, un peu.
Oui. Vous sachez que je pars à Prague, ensuite eux ils partent à Prague, et ensuite je repars à Prague.
Parce qu'on n'est pas foutu de partir ensemble.
Non. D'ailleurs, on n'est pas foutu de réserver ensemble au buffet de Narbonne non plus.
Ouais, non, clairement pas.
Du coup, on a réservé à côté.
Et ni au Lyon Bière Festival où on se retrouve après Prague, tu vois.
C'est n'importe quoi. Donc attendez-vous à que ce soit un peu décousu les rythmes des épisodes jusqu'à au moins juillet, hein, les amis. Donc, première question.
Déjà que les épisodes en eux-mêmes sont un peu décousus en ce moment. Donc...
Oh, oui. Première question, les amis. Une famille qui roule en voiture avec les pieds.
Les pierres à feu.
Oh. Eh oui, les pierres à feu. Yabadabadou.
Yabadabadou.
Souvenez-vous. Est adapté aussi avec John Goodman,
oui.
Julien et Rick Moranis.
Je l'ai trouvé par Steven Spielrock.
Spielrock, oui.
Ah, c'est la version française du générique. J'ai entendu, genre. J'ai entendu un gamin.
Deuxième question. Une famille du futur, grand classique des dessins animés, les Jetsons, qui a eu un crossover avec. Comment il s'appelle? Les pierres à feu.
Il y avait un épisode produit par Anna Barbera,
ouais. Mais qui a eu un crossover. Troisième question. Une famille indigne qui oublie son gamin à chaque fois, sans doute à cause du prénom.
Kevin, ouais. Maman, j'ai raté l'avion, mais je me souviens pas du nom.
Est-ce que vous avez
le
nom de la famille? Du coup, je cherche le nom de famille.
Alors là.
C'est la famille McAllister.
Ok. Okay.
Et on va pouvoir vous consacrer un épisode, un petit épisode du coup, avec la bière Obsolon de chez Nautil que j'ai reçu.
Après, si on fait sur les affres avec la justice de Macaulay Culkin, je pense qu'on peut durer longtemps en vrai. Hein, mais...
Oui. Ça sera peut-être pas un petit. Mais on va rester sur Home Alone. Tu vois.
Home Alone, c'est pas quand tu bois du rhum tout seul. Tu vois,
c'est vrai. Quatrième question. Une famille américaine dysfonctionnelle à mort et qui a même eu droit à son crossover avec les Simpsons.
Les Griffin,
Family Guy. Ouais. Tout à fait.
Et je parle dans mon verre parce que c'est beaucoup plus sympa. Et je parle à
monsieur a soif.
On a encore une bière à goûter.
À réaliser, oui.
À goûter. Donc, effectivement. Et on va rester dans le même thème. Une famille américaine ultra patriote.
American Dad.
Exactement.
Enfin, une famille américaine ultra patriote.
Le père. D'ailleurs, moi je vous ai dit que.
Le poisson, il n'est pas patriote pour le même pays, hein, je veux pas dire, mais.
D'ailleurs, j'ai une petite question. Quel est le personnage des Simpsons que vous aimez le moins, du coup?
Waouh, question difficile.
Moi je sais celui que j'aime le moins, du coup. Ah, cette bière est extraordinaire.
Mo sert de la bière, donc. Ah oui, je suis Ned Flanders, il est casse-couille.
Ouais, mais il est drôle quand même.
Oui, non, il est drôle.
Il est tanké, Ned aussi. Quand il a eu son t-shirt, moi, je suis jaloux. Putain, je vais être gaulé comme Ned.
J'aimerais pas l'avoir en voisin, clairement.
Moi non plus. Non,
salut, voisinou.
Ah, qui Ah, j'aime pas le jardinier.
Ah, ah ouais. Willy.
Le jardinier. Ouais, Willy le jardinier, je suis pas trop pour moi.
Moi, j'aime pas Lisa.
Ah, elle est chiante, ouais.
J'ai du mal avec Lisa parce que je trouve que, au-delà du fait que tu vois, elle défend des causes et tout, c'est bien, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois, dans beaucoup, elle est hyper vaniteuse, en fait. Ouais. Et je supporte pas ce genre de ce défaut-là de base, tu vois.
Madame, je sais tout.
Ah ouais, elle est vaniteuse. Genre, il y a quand même un épisode, je sais plus lequel exactement, mais
un des 800.
Un des 800 où Maggie commence à développer des capacités intellectuelles assez importantes et Lisa sabote les résultats de Maggie. Et je trouvais ça un peu fou.
Hier, pour préparer le podcast, j'ai regardé un épisode totalement au hasard de je sais pas quelle 20e saison, 25e saison, je sais pas. Et je suis tombé sur un épisode où Maggie vient à l'école, une ancienne élève diplômée de Yale, etc. La seule élève qui soit sortie de. Qui ait fait une université sortie de l'école primaire de Springfield. Et qui fout la pression à mort à Lisa. Ah, mais je fais partie de deux groupes. Quoi que deux ? Moi, j'en faisais partie de 7 à l'époque, comme ton âge. Le truc d'escrime, de machin, etc. Elle commence à s'entraîner à l'escrime avec Maggie, qui lui met une tannée.
Ouais, Lisa, comme tout intellectuel cliché, est nulle en sport.
Ah non, elle n'était pas nulle en sport. Mais Maggie, c'est Luke Skywalker. C'est autre chose, quoi.
Pour moi, par contre, Maggie est le personnage le plus badass de la série. En vrai.
Totalement.
Mais tellement.
Et le plus intelligent, je pense.
Oui.
Je pense que l'âge mental des autres est largement inférieur à celui de Maggie. Quoi.
Mais il y a plein de personnages cultes dans les Simpsons. Que ce soit Mo, Carl et... j'allais dire Lewis et Carl. Lewis et Carl, oui. Ses potes, là, comment ils s'appellent
Ils s'appellent par leur nom, je pense. Mais,
Lenny et Carl. Et alors, il y a des trucs aussi, tu vois, avec les Simpsons qui me font marrer, c'est les doublages en français. Quand tu regardes, tu sais, tu te dis, t'as Chef Wiggum, et t'as Will, je sais plus son acolyte, là, le Black. La voix de Will, tu sais... qui est très typé accent africain mais fait par un blanc. Oui chef, si on va passer comme ça chef, tu vois. Et je fais eh ouais. Et alors c'est marrant parce que du coup je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de problème with Apu.
Oui. Non.
Alors VO c'est doublé Apu et beaucoup d'autres personnages c'est doublé par Hank Azaria qu'on a pu voir dans plein de sitcoms et tout ça. Et Hank Azaria du coup est américain et blanc. Et donc du coup il y a un acteur dont le nom qui s'appelle oui c'est Calpen vous avez, c'est un calpin
c'est le mec qui jouait dans Doctor House
tout à fait
qui s'était présenté
qui était avec Obama je crois dans la maison
ouais, voilà
et qui a fait cette fameuse c'est des films Harold des Kumar.
Ah oui,
c'est ça. Ouais. Harold des Kumar, c'est lui. Et du coup, ben, on n'entend quasiment plus Apu jusqu'à il y a peu, je crois, parce que ben, il fallait qu'il disait, ben, il faut Apu symbolise tous les clichés racistes et tout ça sur les hindous, tout ça.
C'est un peu le but de la série quelque part. En
voilà.
Fait,
et là, c'est moi après, c'est pas pour jouer à la polémique du truc, mais tu vois, quand j'ai vu ce truc, je disais, quand même les gars, c'est Apu et puis il y a tout le monde qui prend cher.
En même temps, t'avais la même polémique sur le principal Skinner.
Ah ouais
qui en fait est quelqu'un qui a
Elle mousse
et la moustache.
Très bien. On a un mini gushing les copains. Hop là.
On va chercher du sopalin pour sopalin.
Sopalin. Ah,
du
sopalin.
Du papier essuie-tout.
Ça c'est clair. Hop là, écoute. Bon, il y en aura moins. Eric, donne-moi ton auge. Voilà, désolé chers auditeurs. C'est
et celle-là, aléas. On l'a pas filmé, tu vois.
C'est les aléas du pas direct. Il en restera pour Brissoulet. Hop là, c'est bon. Et oui, on en a mis un sacré pacasse par terre quand même. On va faire un aparté Simpson, le temps que je nettoie avec Brice.
Non, pas d'aparté.
Tu vas pas l'acheter, non. Papa
50 cents sûrement pas. Elle aurait envie de son ancien bureau.
Si je n'avais pas déjà emballé mon coupe-papier, je vous le planterais dans le bide.
Wow. Ray, laissons pas la politique gâcher notre amitié.
Amitié? Vous avez dit aux gens que j'attirais des enfants dans ma maison en pain d'épices.
Oui, c'est un mensonge.
Simpson,
les Américains n'ont jamais toléré qu'il y ait des gens incompétents dans la fonction publique.
Bref.
Vous allez vous planter.
Nous avons ouvert notre Do Not Disturb qui était qui a un peu gâché. Bon, ça arrive. Hein. Elle a à peu près un an aussi. Bon, normalement, les shout-outs ne sont pas censés trop.
Sa DLC, c'était février.
Ah ben, autant on est. Tu vois,
en mars.
Un an près. Donc, bière de chez nos amis d'Icebreaker. Donc, qui représente 10% également de volume d'alcool.
Et on ne sert pas Brice parce qu'il est puni.
Mais non, il n'avait
pas fini.
Brice n'avait pas fini. Donc, écoutez.
Tu vois, je défends Brice quand même ici.
Je vois.
Est-ce qu'elle a le goût de café, celle-là?
Elle n'a pas beaucoup de nez par rapport à la précédente.
Le nez, il est un peu sucré. Tu as un peu de sucre au nez, quoi. Tu as une sucrosité dans le nez, mais c'est tout.
Sucre au nez.
Bon, la mousse, vu qu'elle est un peu...
C'est un peu Scarface.
Elle sent le sucre, quoi. Elle sent le...
Ah ouais.
T'as vu? C'est comme si tu mettais du sucre dans le nez.
Ouais, clairement. je conduis après. Merde.
Non, on ne parlera pas de Pierre Pamel.
Je ne l'ai pas goûté encore, mais j'ai du mal avec l'odeur, en fait.
Il n'y a pas beaucoup de goût de café, ça peut t'assurer.
Elle est légère pour 10%. Elle est traître.
Elle fait 10% aussi?
Elle est à 10%, ouais. Et... Ouais, tu sens pas, enfin, le côté sucré des donuts, pastry,
d'accord,
est un peu léger. Alors la bière est un peu vieille, alors peut-être que c'est lié aussi au fait qu'elle est un peu perdue.
Tout est sur le sol,
tout est par terre. Bon ben, quand j'y remets. Après, elle reste très bonne. Elle se boit en fait très bien. Elle est très
traître. Au goût, c'est
pas le café. Ouais. Je trouve,
non, mais j'avais peur du sucre. En fait, au niveau de l'odeur, c'est très très sucré, mais c'est au goût, ça va.
Les donuts en général, c'est quand même assez sucré. Oui. Et là, tu t'aperçois que ça va. Ils sont pas allés trop loin.
On retrouve un peu après avoir un peu salivé, après avoir bu, on retrouve un peu le côté gras du donut.
Oui. Mmh. Bah tu.
Un petit peu, ouais.
Tu le vois aussi, mais je veux dire. Mais au goût, tu l'as pas de suite. Tu l'as vraiment en fin de.
Tu as une bonne longueur en bouche, en fait. Mais c'est vrai que du coup, comment on connaissait ça? Oui, Brice. Oui, c'est pas... on a perdu.
C'est gras, t'as une bonne longueur. Oui, je sais, ça va.
C'est gras, il y a une bonne longueur. Oui, Brice, on sait. Ça te rappelle tes soirées au tac-tac avec Morte. Ça te rappelle tes soirées au tac-tac d'Aigues Mortes. Bref. Non, elle est vraiment chouette. Mais c'est vrai que la précédente de Listerman avait tellement de goût prononcé que peut-être que c'est ça aussi qui fait que. Mais quand on ne les connaissait pas les deux. Ben, effectivement, on part sur des styles qui sont à peu près similaires, mais voilà.
Mais ouais, non, c'est vrai que tu retrouves bien le côté donut quand même.
Elle est, mais je sais pas s'ils vont la refaire celle-ci, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'éphémères à Icebreaker. Je sais qu'elle avait eu un bon petit succès.
C'est les invendus de donut.
Ils peuvent, mais après, ils aiment.
De plein d'avoir souvent d'invendus de donut.
En plus, ouais. Non, et puis, on l'avait eu en fût, je me souviens que le fût était très, très bien parti également, quoi. Je vais continuer mon petit quiz maintenant qu'on a fait notre troisième bière et qu'on arrive petit à petit sur la fin. Une famille qui aime bien les milieux de semaine.
Le mercredi, la famille Adams.
Voilà.
Oh, joli.
Ah oui. Oh, joli. Bravo. Magnifique. Septième question. Une famille recomposée qui a également Bobby Ewing dans sa.
Dallas. Ton univers impitoyable.
Comment s'appelait cette
JR? Mais alors comment ça peut
Notre belle famille.
Notre belle famille. Est-ce que vous vous souvenez des noms de...
J'ai dit Dallas. Dallas, c'est aussi une famille. Mais
Est-ce que vous vous souvenez des des noms de la...
Cody, tout ça.
Non, du nom de famille des deux familles en fait.
Non, je l'ai plus.
Non. C'était les Lambert.
Ah oui.
Et les Foster.
Mais non.
De la saison 1
quand on écoutait dans un taxi à retour à Prague.
Tu m'as dit. Et d'ailleurs,
la radio, vraiment,
dans cette série, il y a deux personnages qui disparaissent complètement, puis un troisième. Je sais pas pourquoi. Il y a les deux grands-mères qui disparaissent totalement de la série. Et le plus jeune, je crois, c'était Benjamin, je sais pas quoi, le gamin, il a disparu de la série. Il y a aucune mention. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a même des théories farfelues sur la vie. Je fais oui, en fait, c'était un fantôme et tout. C'est n'importe quoi. On va rester un peu sur le format sitcom. C'est une famille afro-américaine qui se fait harceler par un surdoué amateur de fromage et de polka.
La vie de famille. Putain.
Oui.
La vie de famille.
C'est moi qui ai fait ça.
Vous vous souvenez de ça aussi? C'est avec Henri Zeta Lenoir et. Comment il s'appelait celui qui était dans Die Hard? Reginald Ben Johnson. Oui.
c'était qui passait sur Radio. Franchement, c'était la série préférée de mon propre père. C'était pas mal. C'était une série marrante. C'était l'époque où on avait des sitcoms racisés. En
oui,
fait, hein,
exact.
Clairement.
Chacun dans son coin.
On va rester du coup sur la couleur.
En
Technicolor. Une autre famille afro-américaine dont le père était gynéco. Et maintenant qu'on sait ce qu'il a fait, on est un peu mal à l'aise.
Les Huxtables.
Cosby Show. Dixième question. Une famille dont les parents sont aussi tarés que leur gamin. Même que le père, il a fait un rêve où il dealait de la meth et c'était un caïd.
Breaking Bad.
Breaking Bad, non, mais...
Ça pourrait.
Non.
Ah, ben Malcolm.
Eh, Malcolm.
Ah, putain.
Alors, est-ce que tu vois pourquoi je dis ça? Parce que la fin de Breaking Bad, donc je peux citer cette fin-là puisque c'est pas la vraie fin, ils avaient créé une fin alternative. Alors, je sais pas si c'était fait pour être diffusé ou pas, mais ils ont créé une fin alternative où d'un coup, t'as Al qui se réveille dans le lit avec Loïs et qui dit « Putain, j'ai fait un rêve où je vendais de la meth et j'étais devenu un caïd. » Et là, je me dis, si cette fin avait existé, je suis sûr qu'elle aurait été validée quand même, tu vois.
Mais tellement, ouais.
C'est extraordinaire.
Ça aurait été magique.
Ça aurait été magique qu'ils aient, fait, ils aient quand même pensé au moins à tourner cette fin avec l'actrice.
Non, au pire, à faire une scène post-générique en faisant ça.
Ouais.
Ah
ouais.
Le générique du dernier épisode, faire ça. Non, ça aurait été magique.
Ça aurait été extraordinaire. Et là, tu dis, en fait, Breaking Bad est canon dans l'univers de Malcolm. Là, tu fais, what? C'est dingue, quoi. Onzième question. Une famille américaine dont le fils fume des joints avec ses potes dans le garage en écoutant des trucs des 70s.
That 70s Show.
Exactement.
Je connais pas.
Tu connais pas? T'as jamais vu?
Non.
Très très bien, moi j'ai beaucoup aimé.
Il y a eu la
80 Show qui a foiré.
Et The 90 Show, j'ai pas trop mal. J'ai mieux aimé que The 80 Show.
On m'en a dit du bien aussi. Je testerai à l'occasion.
Enfant des années 90.
Allez, on passe à la 12e question.
Enfant des années 80, donc du coup, c'est pas pareil.
Je passe à la 12e. Une famille banlieusarde française qui se fait harceler par une gamine avec des couettes et des ados prépubères, même que dans leur famille, il y a un membre des musclés.
Ah, bah c'est d'un premier baiser. C'est Monsieur Girard.
Monsieur Girard.
Ah, putain, Monsieur Girard.
Je vous beurre la tartine.
Quoi? Oui, c'est vrai que Justine va voir son oncle qui est
framboisier.
Ouais.
C'est le
Feu framboisier
qui est le mec qui a lancé Matin que tu as vu en concert récemment ou que vous avez vu en concert, je pense, c'était ensemble.
Samedi, oui.
Samedi. C'est
il repasse le 16 novembre au Moulin à Marseille. Je vous le donne, ça, c'est gratuit.
Ben,
mais je peux pas y aller, du coup.
Moi, j'y retournerai bien. J'irai bien, du coup.
On peut y aller.
Mais oui,
c'est
totalement. Complet.
Sauf si on est invité.
Oui, aussi. Non, mais du coup, ça fait partie du AB Universe. Parce que tu vois, Marvel, ils sont là, ils te disent ouais, on fait des trucs imbriqués, tout ça. Je rappelle que les crossovers de l'histoire, il y a quand même eu un épisode d'Arabesque avec Magnum.
Oui.
En titre de crossover, ça, c'est du lourd, tu vois.
Les Griffins avec les Simpsons.
Les Griffins avec Simpson. Il y a eu. On en parlait des sitcoms, Notre belle famille et La vie de famille. Eh ben, il y a un crossover entre les deux. Malgré tout, avec la Urkel Dance. Et
t'avais aussi le Prince de Bel-Air avec les Jefferson.
Oui, les Jefferson et le Prince de Bel-Air. Et puis voilà, merde quoi, t'as quand même le AB Universe. Parce que dans la tête de Jean-François Pourri, ou Azelman, Jean-François Pourri d'ailleurs,
Azoulay.
Azoulay. Azoulay, c'est Jean-François Pourri, je crois, le prénom.
AB, c'est. Oui, c'était. Le prénom, c'était ça.
Voilà.
C'était Azoulay et Berda.
Voilà. Ils avaient quand même fait en gros où tu partais. Alors, il y a une vidéo de Georges Grenier qui résume en plus super bien le truc. T'as quand même laissé les musclés avec Framboisier, sa nièce, c'est Justine. Justine qui est la fille de Gérard. Elle a une sœur qui s'appelle Hélène. Hélène et les garçons. Gérard, il a une sœur qui gère un club de vacances. C'est les garçons de la plage ou je sais pas quoi. Il a un frère, Monsieur Gérard, qui lui a une maison où il a Lola. tout est imbriqué. C'est un truc. Et dans l'imbrication totale, t'as les filles d'à côté qui sont dans notre univers à nous.
Et qui regardent à la télé.
Et qui regardent à la télé les îles comme AB. Et là, tu dis, boum. Christopher Nolan se serait inspiré du travail d'AB Productions pour Inception. Je préfère vous le dire. D'ailleurs,
ben
en
oui,
parlant de ça.
Et le truc d'avant, c'était Déception, tu vois.
Déception, ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, une autre famille, justement parentée au Gérard et compagnie, où là, c'est carrément un groupe de mecs qui harcèlent toute la famille parce qu'ils veulent se taper leur fille. Et je l'ai dit juste avant.
Un groupe de. Et les filles d'à côté? Non.
Les filles, non, 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 non. C'est dans l'autre univers. Dans la famille de Justine.
Et les garçons
de mecs.
Non, non, un groupe de mecs qui harcèlent la famille du groupe.
Ah, Lola.
Lola,
Miel les abeilles. Malorinata,
voilà, du Miel les abeilles.
Ah, putain.
Est-ce que vous avez le nom de famille de cette famille
non,
ou pas?
Non.
Les Garniers. Avec Giant Coucou et Eugénie Labonne.
Les mecs arrivaient à se payer une bonne quand même. Dans une maison qui, apparemment, quand tu regardais le truc, était pas une très grande maison. Tu vois, genre le mec, il pouvait largement faire son ménage. Tu vois. Mais non, il avait embauché une bonne et il avait un nain qui pétait des portes. Avec Johnny. C'était n'importe quoi cette série. Vous pouvez retrouver toutes ces séries sur YouTube. C'est pour ça que je les ponce des fois parce que ça me fait toujours halluciner. Une famille afro-américaine qui accueille un jeune banlieusard de Philly qui finira rappeur, acteur.
Prince de Bel Air.
Exactement. Et qui va gifler un autre mec devant tout le monde aux Oscars. Et est-ce que vous avez le nom de famille?
Alors là, non.
Attends. Merde.
Ils sont riches. Pensez à un mot qui
Banks.
Fait... Banks. Voilà. Exact. C'est ça. C'est une famille dont le père, en fait, il va faire semblant de couper des trucs pendant que sa femme, elle se tape tout à la maison.
La petite maison dans la prairie.
Yes, et c'est les
Ingalls.
Les Ingalls.
Ouais, Ingalls.
Exactement.
Wow.
On part sur un film, là. C'est une famille qui nous casse les couilles à chanter que du Sardou.
La famille Bélé.
Oui.
Ok.
Voilà. Ou dans Coda, c'est plus du Sardou, mais c'est le remake US. Qui a eu un Oscar, oui.
Ah putain.
Ah ouais, l'année dernière l'Oscar c'était un film Apple TV.
Allez.
Oui, putain, c'est
et
vrai.
C'était Coda, c'était l'adaptation américaine et qui je l'ai vu.
Est-ce que c'est mieux que la version française?
Alors honnêtement la version française hormis le côté énervant de Luan et de Sardou était acceptable. L'autre est bien mieux du coup.
Ah ouais.
OK.
Où j'ai pris une grande gorgée de la donut. Tu sens bien.
Moi j'ai fini la donut en fait.
Une famille avec des enfants relativement écervelés. Et un père issu d'une célèbre fratrie qui nous a donné des trucs cultes comme Scary Movie.
Les frères Williams, notre famille d'abord.
Exactement. Vous avez le nom de famille de la famille ou pas?
Pas du tout.
Les Kyle.
Ah oui, c'est vrai.
C'était plus. Les Kyle.
Vous savez, en plus, je me fais un rewatch occasionnel de cette série. En fait, j'ai 3, 4, allez, 5, 6 sitcoms que je regarde par épisode, temps en temps, par phase. J'alterne Curb Your Enthusiasm, La famille d'abord.
Je commence quand bien. C'est Larry et son nombril.
Ouais. Frasier et la quatrième, c'est une quatrième que je regarde. Enfin, en gros, et un peu Spin City. Donc du coup, j'alterne les séries comme ça. Bon, ben. Mon historique de visionnage est un peu chelou. Hein, je tiens à le dire.
Mais non, t'inquiète. Une famille dans les années 50 dont le fils fera plein de films un jour et son
Happy
meilleur
days.
Ami. Happy Days. Et son meilleur ami se fera défoncer par les mouvements MeToo bien plus tard parce que on claque pas du doigt pour dire à une fille de venir.
Bon, après Henry Winkler il a quand même été dans un produit, qu'est-ce qu'il a produit déjà,
MacGyver.
Il apparaît dans Barry
il est extraordinaire.
Il a aussi produit ou participé à une autre série un peu culte, j'allais dire Buffy, mais c'est pas... Attends,
il a été dans Parks and Rec, il joue le père gynéco.
Il fait pas une apparition dans Scream
de Jean Ralphio?
Oui,
il est dans Scream.
Il a produit Scream, je crois. Je vais vérifier cette info.
Et je vous conseille un film avec lui que j'adore, c'est Waterboy, avec Adam Sandler.
Putain,
je l'avais en VHS.
Je le remets pas dans le
c'est
film.
C'est le coach. C'est le coach Klein.
Putain, je le remettais pas du tout.
Pas confondre avec le docteur Klein, dont j'ai appris qu'il était encore vivant. Il avait 101 ans.
Et tu l'as pas dit dans la dernière émission où j'ai rêvé?
Hein?
Tu l'as pas dit dans la dernière émission où
j'ai
rêvé?
C'est possible, mais ça me troue tellement le cul qu'il est 101, le docteur Klein.
Et Patrick, tu peux pas avoir 120 ans.
Eh ben non.
Ah.
Voilà. Et Framboisier est mort. Et René est mort.
Cormier est mort.
Ariane est mort.
Rémi
est mort. Billy Paul est mort. Et le docteur Klein, il est toujours là, putain. Extraordinaire. Allez, on arrive sur la fin. Une famille qui accueille un alien chez elle.
Oh,
et le nom de famille, vous l'avez ou pas? Les Tanner.
Les Tanner.
Et enfin, dernière question. Une famille très riche de New York qui se retrouve recomposée avec une famille juive issue des plus gros clichés des juifs new-yorkais.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Une famille de New York, tu disais?
Une famille, c'est les années 90. Une famille très riche. Non, ça c'est Arnold et Willy. Une famille très riche de New York qui se retrouve recomposée avec une famille juive issue des plus gros clichés des juifs new-yorkais.
Ah, mais non. J'allais dire Mrs. Maisel, mais non.
Non. Très connu, qui a été largement diffusé à la télé, sur M6 notamment. Vous l'avez ou pas? Non.
Ah non.
Vous séchez, Eric, je sens que t'es...
Redis dernière fois le pitch.
Une famille très riche new-yorkaise qui se retrouve recomposée avec une famille juive issue des plus gros clichés juifs new-yorkais.
Ah, mais nous d'en faire.
Voilà. Et le nom des
Fran
Drescher
Drescher
et les Sheffield.
Sheffield, ouais.
C'est Fran Fine, c'est pas Fran Drescher, là, Fran Fine. Monsieur Sheffield.
Voilà. Alors en fait, je me suis trompé, il n'a pas produit, il a produit que MacGyver, cette série, la nouvelle série.
Ouais.
Mais il a...
Sérieux, il a produit l'ancienne et la nouvelle. Tout mais il fait. A pas honte pour la
il
nouvelle.
Il a pas honte. Henri, qu'est-ce que t'as foutu?
Mais sans déconner, quoi.
Mais il apparaît dans plein de films. Il apparaît dans, en effet dans Scream, comme le principal de l'école.
Oui, c'est ça, là. C'est le principal.
Voilà. Il apparaît, il réapparaît a priori dans le, en voix dans le Scream. De Scream 5.
D'accord.
Il apparaît, il apparaît comme le premier Atom Smasher dans le film Black Adam.
Ok.
Ok.
Ah non, mais il a fait.
En fait, il est en place, le mec.
Ah bah. Et
je il est plus tout jeune en plus. Hein.
Tu penses qu'en fait, dans son CV, il y a marqué j'ai été Fonzie et en fait, on l'embauche ou comment ça se passe?
D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, une série.
Le jeu d'art, Arrested Development aussi.
Ah oh. Mais j'aimerais bien qu'un jour, on ait en streaming Happy Days.
Ouais.
Parce que
franchement, ouais.
Les saisons en DVD sont quasi introuvables.
Il a 77 ans.
Ah ouais, c'est quasi introuvable en DVD. J'avais réussi à l'époque, pardon Adobe, à télécharger des épisodes pour mon père qui était fan de Happy Days et il manquait des trucs. Mais c'était une série de ouf qui avait révélé Richard Cunningham, c'est Ron Howard,
ouais.
Fonzie, Henry Winkler. Il y a eu Scott Baio, je crois. C'est Scott Baio qui est dans. Non, je confonds peut-être. Dans Happy Days.
Dans Happy... Scott... Oui, je crois qu'il apparaît.
Oui, c'est Tony Danza qui est dans Taxi. C'est ouais. Scott Baio, parce que des fois je les confonds un peu. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu.
Ils sont bruns.
Et Scott Baio, Scott Baio qui est dans Happy Days. Et c'était une série qui était ouf. Il y a même un clip que je vous conseille de Weezer qui s'appelle Mary Tyler Moore, donc le Mary Tyler Moore Show. Et en fait, ils font un concert chez Al, donc le diner chez qui où ils se retrouvent. En fait, c'est le. C'est en gros le là où, comme dans Salut les musclés, le premier baiser, c'est où il y a. C'est le mec qui fait toujours des réponses à ça. Chez Monsieur Laplace, au fameux café de Monsieur Laplace. Là, c'est chez Al et tu as Weezer qui donne un concert. Ils ont monté, en fait, le clip en incrustant le groupe dans des épisodes de Happy Days et j'ai trouvé ce clip génial.
Ok.
Voilà, c'est tout pour notre quiz. On va terminer sur nos petites recos. Alors, qui a une
Je parle en dernier.
Ah, Brice,
parce que je cherche quelque chose, en fait.
Est-ce que j'en ai une? Non, je n'en ai absolument aucune, parce que je n'ai rien vu, en fait, dernièrement.
Tu n'as rien vu, bon.
À part, mais on va faire une émission dessus.
Ah, oui.
Donc...
Battlestar Galactica.
Voilà.
Il a enfin attaqué Battlestar
Galactica. J'en suis à peu près à la moitié de la saison 2. Et je ne regarde que ça et je joue à Hogwarts. Voilà.
Okay.
Ma vie est passionnante. Je ne vais pas au ciné, je regarde que dalle.
Bah, en ce moment, j'ai pas vu trop de trucs qui m'ont transcendé au ciné, hein, perso. J'ai vu le dernier Marvel.
Il y a Avatar, il y a le dernier Marvel, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on avait dit
Moi, j'ai pas été transcendé, tu vois.
Et qu'il fallait absolument que je voie. Ah oui, Fableman.
Ah oui.
Que
oui,
j'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais c'est certainement très bien. Mais j'ai pas vu.
C'est possible. Bah écoute, je vais commencer. Moi, j'ai deux recos brassicoles pour commencer.
Avant de passer sur les recos,
dis-moi.
Je cherchais pour Happy Days en vrai. Aux USA, c'est Paramount Plus qui l'a et Pluto TV qui l'ont. Donc, vu qu'on a Paramount Plus en France,
ça peut-être
qu'un jour,
arriver.
S'il n'y a pas de problème de droit,
ce serait
ça,
sympa.
Voilà.
Allez, moi, je me lance sur les recos. Donc, j'en ai deux recos brassicoles. Issu de deux TTO qui sont venus de deux brasseries que j'affectionne particulièrement, que je connais depuis quand même quelques années. La première, c'est Intaberna, donc qui nous vient d'une contrée lointaine. Ils sont au nord de Manosque, mais c'est à bien une heure et demie au nord de Manosque. Montauban, excusez-moi, Montauban, pas Manosque. Rien à voir.
Rien à voir.
Rien à voir. La brasserie Intaberna qui a été créée par Marlène et Guillaume, qui font des recettes vraiment ouf qu'on avait reçues et dont j'ai encore quelques bières chez nous. Ils font des bières dégruites notamment, donc c'est des bières sans houblon, ancêtres de la cervoise notamment. Ils font des gruites, ils font des bières vieilles en jarre, ils font des vieilles recettes. Ils ont fait une porteur issue d'une recette qui date de 1948, en Jean-Michel. Non, ils font beaucoup, beaucoup de belles choses. Et dans la région de Marseille, ils sont vendus pour l'instant que chez moi. Ils essaient de se vendre un petit peu plus loin que leur région, donc si vous les croisez dans des festivals, foncez, ils sont géniaux. Et le deuxième coup de cœur brassicole, c'est la brasserie du Haut-Buech, BHP, donc située dans le Haut-Buech, près des Hautes-Alpes, dans les montagnes. David, qui officie depuis maintenant 14 ans, que j'ai connu au moment où j'ai lancé le blog, il y a 10 ans. Pour l'anecdote, c'était le premier Provence Bière Collection, l'ancien festival de Marseille. Il avait fait un TTO chez nos copains de chez la Route des Bières à Bouc-Bel-Air. Il avait fait une Gratzer, donc c'est une bière à 3,5%, un petit peu fumée. C'est un des rares à faire ce style. Et on avait fait cuire des saucisses, parce qu'il y avait un food truck de hot dog dans sa Gratzer. Et
en
c'est
fait,
extraordinaire.
Là, depuis que tu parles, j'entends Brothers. Mais...
Gratzer, Gratzer. Je t'aurais tellement parodié ce style. mais voilà, donc ça faisait bien 3 ans que David n'avait pas fait de TTO. Il est venu la dernière fois. Et il nous a amené plein de belles créations. Et il fait des trucs vraiment, vraiment cool. Et en roco narrative, ben, pour rester dans le thème des Simpsons, ben, moi, je vais vous recommander Désenchanté.
Mylène Farmer.
Voilà,
pardon.
De Matt Groening, entre autres. Hein. Donc c'est moins fou que les Simpsons et que Futurama.
Déjà, les personnages sont pas jaunes.
Ils sont pas jaunes, ils sont beiges, mais ça donne un aperçu qu'en fait c'est pas choquant si les Simpsons avaient été beiges. Mais c'est les cheveux belges, Yamilouz, Van Houten. C'est plutôt le fait que les Simpsons, les enfants Simpsons, ont les cheveux qui sont la même couleur que leur peau qui aurait peut-être été un petit peu chelou. Mais voilà, Désenchanté, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu réticent au début, j'ai commencé. C'est quand même une trame sur fil rouge, c'est pas de l'épisode, un épisode d'une histoire, un épisode d'une histoire. Mais au final, tu te prends au jeu la parodie d'Heroic Fantasy, les trucs comme ça, c'est assez drôle. Il y a quand même des gags assez cool. Et puis, bah, Lucie, donc le petit démon est quand
c'est
même très cool.
C'est pas marqué dans les
voilà.
livres.
Le petit démon, tu as Elmo, le lutin, et puis même le père, entre autres, en plus de l'héroïne.
Il est père, lutin et père.
Lutin et père. Non, voilà, c'est vraiment une série que j'ai bien aimée, que je vous conseille si vous avez envie de rester sur l'univers de Matt Groening tout en changeant un petit peu de thème. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà. C'était Marocco du jour, parce que comme Brice, j'ai pas vu grand chose ces derniers temps, malheureusement. Mais voilà, bon, restant le thème, j'ai bien aimé Désenchanté.
Alors, moi, j'ai vu pas mal de choses, mais pas de films. Donc,
toi, tu arrives à voir tellement de trucs, je suis halluciné des fois.
Et là, j'ai attaqué la série, enfin, j'ai quasiment fini bientôt, la série Shrinking sur Apple TV+.
Ah, c'est pas avec Harrison Ford
et Jason Segel.
Jason Segel.
Et non pas Steven
Seagal.
Seagal
qui fait des films de merde, mon dieu. Regardez les derniers films de Steven Seagal, vous allez vous marrer.
Alors en gros, depuis mercredi, Ted Lasso a repris. Et oui, et voilà, je balance une news comme ça en mode.
Quoi?
Comment? Qu'est-ce que j'apprends?
Qu'est-ce que j'apprends, monsieur Gérard? Ah non, pardon.
Donc en fait, le producteur Bill Lawrence a scénarisé une nouvelle série qui s'appelle Shrinking. Avec donc Jason Segel et Harrison Ford. Et elle est diffusée depuis le 27 janvier au rythme d'un épisode par semaine. Donc là, on finit, je crois, cette semaine, ou on a fini la semaine dernière. C'est une sorte de dramédie, un peu comme certains épisodes de Ted Lasso, on va dire.
Du coup, ça reste drôle quand même.
Oui, mais.
C'est moins feel good, peut-être.
Oui, c'est moins feel good. Mais je retrouve des vibes de Ted Lasso quand même. C'est moins positif, on va dire. En fait, c'est basé sur l'histoire d'un psy,
ouais.
Jimmy Laird. Interprété par Jason Segel, qui en fait a perdu sa femme et donc est dans un deuil. En deuil, ça c'est fort quoi.
Ça me rappelle la série avec Rick Gervais aussi qu'il faut que je commence.
Et il commence. Ah oui, Afterlife.
Afterlife, ouais.
Afterlife c'est beaucoup moins feel good que tout ce que tu peux avoir en bas.
Ah oui. Mais c'est Rick Gervais quoi.
Voilà. Il commence en fait après en étant dans ce mode deuil. Le premier épisode démarre, il est juste en train de picoler avec des nanas qui font la moitié du quart de son âge, quoi. Enfin bref. Et il commence à briser ses barrières éthiques de psy en gros en disant aux patients directement, vous devez faire ça maintenant, c'est tout. Énervé, agacé, quoi. Et du coup, ça change beaucoup de choses dans sa vie.
D'accord.
En bien et en mal, évidemment, mais ça a un impact fou sur tout son entourage, son voisin. La voisine est jouée par Krista Miller. La femme à la ville de Bill Lawrence, celle qui jouait la femme de Kelso dans Scrubs. Kelso, de Cox, Dr. Cox.
Oui, j'adore ça.
Voilà.
Qui était dans la série Cournet Cox aussi. Cougartin, ouais.
Mais, série de Bill Lawrence aussi.
Oui, bah,
c'est la femme de Bill Lawrence.
Et c'est... c'est même croisé dans le même univers, je suis sûr.
Et donc, par exemple, elle, c'est la voisine du héros. Harrison Ford, c'est le vieux psy. C'est le psy.
Ouais.
De Jason Segel en fait, le psy du psy. Il y a une collègue suicide.
C'est le psy du psy.
Voilà, il a sa fille avec qui il a du mal à connecter parce que justement avec le deuil,
ouais.
Il y a un peu des histoires en famille qui se bagarrent un peu. Et Et franchement, ça a une vibe un peu Ted Lasso. C'est...
Ah, je vais tester ça pendant mes vacances.
C'est plus... plus sombre, enfin plus sombre. Plus triste en tout cas au démarrage. Plus doux amer, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est plutôt doux amer.
Puis le sweet.
Voilà, mais franchement, on s'éclate. Enfin, je regarde ça avec madame et on s'éclate bien en regardant ça.
Et c'est, on peut le regarder sur quoi ?
Apple TV Plus.
Apple TV. Il y a une série en parlant de psy que je voudrais démarrer aussi avec Steve Carell, on parlait de The Office et tout. C'est The Patient, je crois que c'est sur Apple Plus.
Ça me dit rien.
C'est un psy. En fait, mais qui se fait kidnapper par un de ses patients.
C'est très feel good, ça.
Ah, c'est pas feel good du tout. Et en fait, il dit à Steve Carell, en fait, son psy, en gros, bah, faut vous me soigner parce que bah, je suis un serial killer. Et je crois que le serial killer est joué par l'acteur qui joue dans Fablesman, là, mais je suis pas sûr.
Alors, c'est pas sur Apple TV+, c'est sur Disney+.
Ah, The Patient.
C'est une série Hulu, en fait. Donc,
Ah, voilà.
C'est avec Steve Carell.
C'est dispo en France ?
Ouais.
Oui. Ok.
Il paraît que c'est pas mal.
Depuis le 14 décembre.
Ouais. Okay. Donc
10 épisodes aussi.
Voilà. Pas mal. Le psy du psy. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que les psys se font suivre.
Oui.
J'ai une copine psy qui se fait suivre par un psy. Du coup, c'est dans le métier. C'est obligatoire. Mais qui suit le dernier psy ? Du coup, tu vois, la question elle est là.
Mais dans la rue ou...
Le humain centipède du psy. Tu vois, ils se suivent les uns derrière les autres.
Oui, alors je veux bien que les psys parlent. Mais en fait, c'est un humain centipède avec une oreille et une bouche à chaque fois. C'est bizarre, hein, votre truc.
Ouais, on comprend rien. Ouais. Donc, ok. Et toi, Brice, alors, tu as quelque chose qui t'est venu entre temps ou pas du tout ?
Non, j'ai vraiment rien.
T'es resté sur Battlestar.
Voilà. Voilà. Sinon, vous pouvez jouer à Hogwarts Legacy, c'est très bien. Si vous avez aimé l'ambiance Harry Potter, le jeu est vraiment dans l'ambiance.
Ah oui, c'est le jeu Harry Potter.
C'est. Voilà.
D'accord.
C'est cool. C'est bien foutu. Alors, ça se passe avant Harry Potter.
Ouais.
Ah, c'est avant ? Ouais, c'est en 1800 et quelques. Mais bon, tu as Hogwarts, Poudlard comme tu as pu le voir dans les films, et du coup tu vois autour un petit peu, c'est un peu comme GTA en fait, hein. C'est un espèce de pseudo jeu de rôle avec des quêtes à faire et tout.
Avec un monde ouvert
Voilà, monde ouvert, sauf que bah, du coup tu as des pouvoirs magiques, tu peux faire du Avada Kedavra, tu peux... Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de répercussions en fonction de comment tu joues.
D'accord.
Bah, c'est en fait là, quête, mais pas une quête principale qui avance.
Enfin, si, oui, tu as une quête principale, mais en fait, ce que je veux dire, c'est là, au début, tu as le choix pot. Tu peux refuser la maison qui te propose.
Ouais.
Mais je veux dire, là, moi, j'ai pris Serre d'Aigle. Et en fait, tu peux apprendre Avada Kedavra même en étant à Serre d'Aigle. Tu peux utiliser Avada Kedavra.
Ah, oui,
et en fait,
ouais.
Ça n'a aucune répercussion en fait, dans comment les personnages te voient. Alors que bon. J'ai pas lu les bouquins, mais dans le film, apparemment, utiliser Avada Kedavra, c'était oh mon dieu! Et là, non. Donc,
ouais, c'est...
Mais l'ambiance est sympa parce que tu retrouves toutes les créatures. Enfin, ça intègre aussi un petit peu les créatures fantastiques. Du coup, tu peux capturer des sombrales, des licornes, des nifleurs, etc. Qui te permettent d'améliorer tes équipements, etc. Et l'ambiance en elle-même est vraiment très proche des films et j'imagine des bouquins aussi.
Et là, tu joues sur quoi ça joue sur ordi ça ?
Sur mon Shadow, mais ça y est, sur PS,
sur ordi,
PC. Ça va sortir sur la Switch en juillet.
D'accord.
Mais...
J'ai commencé un jeu que peut-être moi je connaissais pas le personnage, d'ailleurs, pour la parenthèse, jeu vidéo vite fait avant de conclure. C'est un jeu genre un peu, tu vois, d'enquête. Très cool, un peu comme L.A. Noire et tout, dans un monde pseudo ouvert en fait, pas vraiment ouvert, mais c'est Black Sad.
Ah oui, la BD.
Et le jeu n'avait pas été prénoté avec le chat, parce qu'apparemment il était bourré de bugs sur les autres consoles, mais sur PC il tombe très bien, il n'a pas de bugs.
Okay.
Et donc j'ai commencé et le jeu est très beau. Les voix, le doublage est nickel, l'univers est vraiment cool et j'ai vraiment vraiment kiffé. Je savais pas que c'était une BD éditée je crois par Dargo, que j'ai découvert du coup sur l'OTA et je pense que une fois que j'aurai fini le jeu, je m'amuserai à lire les BD.
Je les ai à la maison si t'as besoin.
Bah voilà, c'est un très 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 bon jeu. Bah écoutez, on arrive au terme de notre émission. On a fait 1h37 d'émission, donc voilà. Vous aurez exceptionnellement une émission qui sera en une partie. Parce que pour des raisons de commodité, parce que je pars jeudi dans deux jours en vacances.
Et on enregistre mardi. Donc
voilà, et on est
mardi minuit bientôt. Donc,
donc j'aimerais pouvoir monter l'épisode rapidement et pas le scinder en deux. Donc pour la peine, vous aurez droit à un épisode complet, parce qu'on essaie de vous faire un rythme d'un épisode par mois. Mais en ce moment, on a tous des emplois du temps qui sont un petit peu compliqués.
Déglingués.
On a même du mal à se voir en dehors des podcasts, pour ainsi dire. Et donc voilà, donc on, voilà, on vous revient avec d'autres épisodes. On a encore plein de nouveautés qui vont arriver. Brice va enfin pouvoir nous faire un truc sur Battlestar.
Ouh là là, il reste encore 2 saisons et demie.
Donc en 2025, vous aurez droit à Battlestar. Nouveauté également sur Spotify que j'ai noté. Maintenant, vous pouvez laisser des avis et commenter les podcasts, enfin les émissions que vous écoutez. Donc c'est plutôt cool. Je viens de découvrir ça.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de commentaires. Bon, on n'a jamais demandé non plus, mais.
Non, mais Tumult n'existe plus.
Ouais.
Donc forcément, bah, au niveau commentaires, il n'y a plus grand chose.
Il n'y a pas de commentaires sur les styles iTunes, enfin les sites comme
non,
ça.
Non, Spotify, ouais, c'est non, le premier à lancer. Bah,
des notes, quoi. Il y a des notes, si, il y a des notes sur
des iTunes. Notes sur, ouais, mais je ne sais même pas comment on les voit. Donc si vous notez sur Apple, c'est cool. Spotify, je ne sais même pas vraiment comment on peut voir les notes. Mais voilà, je vois les stats, je vois qu'il y a du monde qui nous écoute. Il y a beaucoup de brasseurs qui nous écoutent en brassant et ça fait plaisir.
On leur fait des bisous vu qu'ils nous écoutent en brassant.
Voilà, et puis ben, comme d'habitude, si vous nous écoutez, que vous brassez une bière. Que...
Il a pas eu.
Non, je pense qu'il a pas compris.
Ah oui, pardon. Ouais, on est en fin d'émission. Si, que je disais, si vous êtes brasseur ou que vous êtes caviste ou vous êtes distributeur et que vous avez une bière qui pourrait correspondre, ben, comme ici avec la Valkyrie, la Donut Sister et la, celle de Listerman, à une série, une émission, un roman ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit message, à nous envoyer vos bières par exemple. On sera ravis du coup. De parler de votre brasserie ou de parler de votre magasin si c'est vous qui l'avez envoyé et de vous faire un peu de pub.
En fait, tu peux même noter sur Podcast Addict.
Ah, bon, on
etc.
peut noter, voilà. Voilà, voilà. Et vous pouvez nous retrouver, donc, je crois que tu l'avais dit tout à l'heure, mais sur tous les réseaux sociaux également. Le site internet de Bière Narrative n'a pas encore été mis à jour. Je vais le mettre à jour pour, avec les derniers articles, avec les dernières données des épisodes. Désolé, j'ai manqué de temps. Et voilà, vous pouvez donc. Nous retrouver un petit peu sur toutes les plateformes de streaming et j'annonce on va sans aucun doute vu que j'ai lancé un petit sondage sur Instagram et que les gens ont validé dès qu'on aura l'équipement évidemment on va se tenter à faire une petite émission live éventuellement avec des jeux sur Twitch. Donc ça il faut juste que j'ai un peu de matos qui vienne et peut-être qu'on va faire notre baptême du feu twitchien en tant que podcast avec 12 par sec pour l'émission de Star Wars qui est qui va falloir qu'on fasse dans quelques temps. Donc ce sera
pardon.
Non, vas-y, vas-y.
Non, en fait, c'est juste c'est pas rétroactif en fait les QNR. Enfin les questions
Ah d'accord.
C'est là sur le dernier épisode effectivement, il y a what do you think about this episode.
Mais pas sur les précédents.
Mais sur les précédents, c'est
ah, c'est
ça
con, ça.
Pas.
C'est con parce que tu peux écouter dans le dans nos épisodes
ouais,
donc
c'est bizarre qu'il l'ait pas mis en rétroactif.
Bah écoute. Bon bref, voilà. Mais vous pouvez commenter les épisodes. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour je ne sais encore quel thème, on n'a pas choisi, je crois.
Alors, je bosse sur deux thèmes. Alors, un des
Marc
deux.
Et Sophie et...
Non, je pense viser Quantum Leap.
La lune. Pardon.
Quantum Leap.
Ah
Code
oui, oui.
Quantum.
Parce oh. que parce que j'ai fait venir au bar la Quantum Hog.
D'accord. Et je suis un fan de Code Quantum.
Si et Code Quantum qui vient d'avoir sa nouvelle
adaptation qui vient d'être achetée justement par M6, je crois,
ah, bah,
pour
voilà.
diffuser sur une série ou série.
Je vous emmerde.
D'accord. Bah, voilà, bah, éventuellement, c'est vrai que Code Quantum ce serait génial. Puis après voilà, on a plein d'autres trucs, on a
tu peux lui faire,
on a des trucs sur Indiana Jones, sur Tomb Raider, il y aura une émission avec Elodie, on accompagne qui est fan de tout ce qui est archéo, donc forcément il y aura une émission avec elle qu'on a eu avec Ria sur notre épisode sur l'inspecteur Gadget de mémoire. Et puis voilà, donc bah, écoutez, continuez à nous écouter, continuez à boire avec modération des très bonnes bières et à vous guérir d'art narratif. Et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Engagement!
Ton nom c'est quoi, piéton?
On a frôlé la chatte propre.
Négatif, je suis une mythe en pilo vert.
Hey, moi aussi, je te pisse au cul!
Vers l'infini et au-delà.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.